Quel est ce déclic qui amène une personne à reprendre sa santé en main et comment cela l'amène-t-elle à reprendre confiance dans son corps et sa vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de Thibaut. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Si Thibaut n'avait pas été mon invité, si je n'avais pas eu rendez-vous avec lui sur Zoom, si je l'avais croisé dans la rue, je ne suis pas certain que je l'aurais vraiment reconnu. Car quand Thibaut est apparu sur mon écran pour enregistrer cet épisode, je me suis dit que le changement était vraiment incroyable. Et pour cause, Thibaut a perdu près de 54 kilos. Et je connais Thibaut depuis longtemps sur les réseaux sociaux. En fait, je l'avais invité dans mon ancien podcast il y a maintenant 5 ans. J'apprécie toujours la lecture de son blog, je regarde son Instagram, ses photos, je regarde ses conseils. Et ces derniers mois, j'ai vu qu'il s'était mis à fond dans le sport et notamment le crossfit. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle je voulais l'inviter. Mais je n'avais pas cerné l'ampleur de son changement de vie, de sa reprise en main de sa santé. Car son état de santé était vraiment très mauvais, surtout pour un jeune papa trentenaire. Et son espérance de vie, son espérance d'être au mariage de sa fille, peut-être pas vraiment très élevée. Obésité morbide, fréquence cardiaque très élevée, apnée du sommeil trop nombreuse, nuit sous respirateur, douleur de dos, fatigue, le cœur engoncé dans de la graisse viscérale. Bref, la santé de Thibaut était vraiment précaire finalement. Pourtant, Thibaut avait essayé plein de solutions pour perdre du poids, il va en parler dans cet épisode. Et un beau matin, au bout du rouleau, il a pris la décision de se faire opérer pour perdre du poids et faire un bypass, une opération qui diminue le volume de l'estomac et de l'absorption des nutriments. Depuis, Thibaut a repris en main sa santé, il a appris à manger, nous parlons d'ailleurs de la satiété et des injonctions qu'on a entendues dans notre enfance. Il a repris le sport, du crossfit, de la course, du triathlon maintenant, une aventure en vélo et des projets. Et un mot qui revient beaucoup, beaucoup dans notre conversation, c'est la confiance. Confiance en lui, confiance dans son corps, confiance aussi dans son avenir et sa capacité à bien vieillir et accompagner sa famille encore très longtemps. Je remercie Thibaut pour cette discussion très, très riche et j'espère que vous l'apprécierez autant que je l'ai apprécié moi aussi. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va très bien, écoute, moi je suis très content de te retrouver et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tous les deux.
Bah oui, 2018, ouais. La dernière fois.
Bah, à l'époque on parlait de trucs geek et tout, on parlait de tes montres, de cardio que tu changeais tous les 3 jours et tout.
Exactement. T'as bien changé depuis.
Ouais.
Non, j'ai une Forerunner depuis quasi un an et demi et je la changerai quand elle sera morte, donc... Gros changement, ouais, c'est ça.
Oui, parce qu'on avait fait un épisode de stabilité, de non-stabilité de tes usages. Et j'avais dit d'ailleurs en rigolant que ça me faisait assez rire parce que c'était vraiment ta caractéristique de changer des usages de montres, de matériel, etc. Mais alors par contre, ces derniers temps dans le sport, j'ai l'impression que maintenant t'as trouvé ton truc, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant c'est vraiment le sport qui m'occupe. Et donc, forcément, tout ce qui est un peu geek, changement de téléphone et autres, entre le boulot et les heures de sport et la vie de famille depuis, ça m'intéresse beaucoup moins qu'avant. Et donc, je me concentre sur autre chose. Et effectivement, pour l'instant, c'est le sport. Ouais.
Bon, alors, on va te présenter en quelques mots parce que moi, je te connais depuis très longtemps. Enfin, maintenant, je ne sais plus combien d'années. J'essaierai de retrouver le lien où je t'avais invité dans votre coach web. C'est vrai que c'est très ancien, cette histoire-là. Alors, en quelques mots. Ouais, bon, déjà, on sait que tu es en Belgique.
Oui, ça doit s'entendre l'accent. Donc, moi, j'habite en Belgique. Il y a un petit village qui s'appelle Thoin. Je m'appelle Thibaut, pour ceux qui ne savent pas. Dans la vie professionnelle, j'ai une entreprise qui gère tout ce qui est sécurité, donc système d'alarme et autres, mais on n'est pas là pour parler de ça. J'ai une petite fille de 6 ans et j'ai eu récemment 38 ans et je suis bébé triathlète depuis 6 semaines ou 7 semaines, je sais plus exactement quand j'ai fait le premier. Donc voilà, et là j'y suis à fond dans l'entraînement. Et sinon, je reste quand même passionné par tout ce qui est un peu tech, mais de loin, parce que voilà, comme j'expliquais, j'ai pas le temps entre toutes mes casquettes. Et je me suis découvert une passion pour la natation, donc dès que j'ai un peu de temps libre, je vais en piscine.
Ah oui, je savais pas que tu t'es découvert une passion pour la natation, moi.
En fait, j'ai beaucoup nagé quand j'étais jeune, et puis j'ai laissé tomber à peu près comme tout le monde en entrant adolescence et début des études, etc. Et en fait, ici pour le triathlon, je me suis quand même dit je vais aller nager une fois ou deux histoire de tester un peu la distance et voir si je suis capable de le faire. Et en fait, je me suis redécouvert une passion pour ça. Et donc là maintenant, je m'entraîne deux fois par semaine quand j'y arrive. Et j'essaye là avec l'été d'intégrer un entraînement en eau libre. Histoire de tester un peu en conditions réelles avec la combinaison et le côté un peu courant et un peu pas contrôlé d'une piscine. Quoi.
Et tu n'as pas parlé du crossfit ?
Oui, en fait, donc ouais, ça c'est le crossfit. Là, j'en fais beaucoup moins. Forcément, c'est l'été. J'essaie d'avoir. Donc, j'essaie de m'entraîner 6 fois semaine. Mais là, comme je fais de la course à pied, du vélo et de la natation, le crossfit est un peu passé à la trappe. À mon avis, ça reviendra plus cet hiver quand le temps ne me donnera plus envie de sortir, profiter du soleil. Mais donc, ouais, j'ai repris le crossfit. Enfin, j'ai commencé le crossfit il y a un an et demi, donc au mois de mai de l'année passée, sur un coup de tête. Donc, en fait, ça faisait très longtemps que j'en parlais à ma femme qui un jour m'a dit au lieu de m'en parler, essaye, on verra. Et donc, voilà. Au moins, c'était réglo, elle avait raison.
Ouais, c'est la sagesse. C'est la sagesse même, quoi. C'est ce que j'ai dit dans ma formation. Dans Sam, c'est la conclusion de ma formation, Sam, tu vois. C'est exactement le mot de conclusion. Ta femme, elle avait entièrement raison.
Exact, et donc du coup j'avais un pote qui en faisait à qui j'en ai parlé et qui m'a inscrit à l'initiation, et là c'était un gros coup de foudre. Je pense que j'en avais besoin à ce moment-là. Je sortais d'une grosse période de perte de poids et je cherchais un peu une activité pour maintenir ça et me remettre en forme. Et donc du coup j'ai commencé le crossfit, et donc comme tout le monde j'ai commencé avec 2 entraînements semaine. Très vite je suis passé à 3 puis 4, et même des semaines à 5, mais là c'était trop. Parce que c'est quand même de l'effort intensif, et donc 5 entraînements semaine, ça demande beaucoup d'implication, donc ça ne j'avais pas. Donc j'étais sur une moyenne de 4 entraînements semaine, et en fait ça m'a permis de reprendre beaucoup de confiance en moi, de retrouver une condition physique qui m'a permis de me remettre à faire d'autres sports, comme le vélo, la course à pied, etc. Et ce qui a amené, un an et demi plus tard, à mes débuts en triathlon, et aussi sur un coup de tête. Mais ça c'est une autre histoire.
Bon, c'est une histoire dont on parlera, parce que oui. Bon, c'est vrai que moi, toi, là, que je te vois et tout, t'as perdu combien de kilos ?
J'ai perdu, je fais 97 kilos et j'étais à 151, donc j'ai perdu plus de 50 kilos, 54.
54 kilos. Et ouais. En fait, là, tu vois, parce que moi, j'étais sur tes photos, tes anciennes photos et tout, et là, tu vois, je te crois, je te reconnais pas.
Non, j'ai perdu mes cheveux aussi entre-temps, mais non, effectivement, par rapport à avant, oui, la métamorphose est assez impressionnante. Et donc, le crossfit m'a permis justement de reprendre un peu confiance dans un corps dans lequel j'avais plus confiance, et de remuscler mon corps, et donc de réapprendre à apprécier l'image que j'avais de mon corps. Et donc, du coup, voilà. Mais oui, non, effectivement, j'ai croisé des gens comme ça qui m'avaient plus vu depuis. En fait, je me suis donc comme ça. On y va direct. Donc moi, j'ai fait un bypass il y a 3 ans, jour pour jour. C'était le 22 juin, 2020. Et donc j'ai croisé des gens qui m'avaient plus vu depuis ce moment-là et qui effectivement m'ont pas reconnu parce que la perte de poids était impressionnante, et puis j'ai changé un peu le look, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai mis des lentilles, j'ai rasé les cheveux parce que la calvitie était là, donc ça sert à rien de se battre contre les cheveux. Et donc forcément je peux comprendre qu'on me reconnaisse pas avec tous ces changements-là, quoi.
C'était quoi ta démarche, en fait, à un moment donné, quand tu décides de faire le bypass et compagnie? C'est quoi? C'est que t'en as marre? C'est que tu veux...
Oui, c'est ça, c'est trop. En fait, j'ai essayé toutes les voies classiques, le régime, la surveillance, etc. Je pense qu'il y a eu un gros mix j'avais beaucoup de boulot, je me lançais dans la reprise de la société familiale, donc j'avais énormément de boulot. Et donc je pense que beaucoup de stress à gérer, etc. Et donc j'ai jamais réussi à mettre des stratégies propres en place pour perdre du poids naturellement. Et un jour, je me suis levé un matin et j'en avais trop. Je me suis dans le miroir et j'ai dit ok, là c'est trop. Puis ça devenait compliqué aussi pour ma santé, parce qu'à ce moment-là, je dormais avec une CPAP. Je faisais une centaine d'apnées, je crois que c'est à l'heure, je ne sais plus exactement quelle est, mais c'était beaucoup de trop.
Ouais.
Ouais, c'est ça, j'étais même censé ne pas pouvoir conduire tellement je faisais d'apnée. Donc ça, d'un point de vue santé, ça devenait compliqué. J'avais des pulsations cardiaques qui frôlaient les 90 pulses par minute au repos. Et dès que je montais un escalier, quoi, etc. Donc là, j'ai dit c'est tout, stop. Et donc c'est là que j'ai commencé à me renseigner pour l'opération. Et j'ai rencontré le chirurgien. Il faut 2 facteurs sur 4 de morbidité, ce qu'ils appellent. Non, j'en avais 3. Donc, surpoids, pas problème de cœur, mais un cœur qui avait du mal à battre à cause de la graisse, et alors apnée du sommeil à répétition. Et donc, ce qui fait que j'ai pu être opéré. Et très vite, j'ai perdu beaucoup de poids, et donc c'était assez agréable. Les premiers mois étaient un peu compliqués parce que tu dois tout réapprendre à manger. Enfin, les premiers mois, non, le premier mois, c'est très compliqué parce que tu manges rien. C'est très liquide, beaucoup de yaourt, etc. Et puis, tu dois commencer à réintégrer à peu près ton alimentation et donc réapprendre à manger. Et une des choses qui est la plus compliquée, je trouve, dans nos générations, c'est d'apprendre à écouter sa faim et de parfois s'arrêter à la moitié de son assiette parce que ben, ton estomac n'a plus envie. Et ce qu'on nous a jamais appris, parce que moi, j'ai toujours eu des parents qui m'ont dit que quand tout ce qu'on met dans son assiette, on le mange, qu'on ait faim ou pas. Et donc voilà, donc là j'ai dû réapprendre à manger, etc. Et en fait, petit à petit, découvrir un peu les aléas du bypass, parce que c'est toujours un peu la question, c'est de savoir ce qui va passer, ce qui va pouvoir être digéré, etc. Donc on découvrait un peu mon alimentation, et au final, 3 ans plus tard, à part quelques aliments qui ne passent vraiment pas, j'ai une alimentation tout à fait correcte. Je peux manger tout, je peux boire de tout, j'ai pas de. Enfin, boire de tout, non. Tout ce qui est trop sucré, ça va être compliqué à gérer. Mais je veux dire, dans l'ensemble, je ne prive de rien, à part de certains aliments bien précis qui, eux, ne sont plus tolérés par mon corps. Mais pour le reste, rien de bloquant. Quand je dis aliments bien précis, c'est la glace. La crème glacée, ça, c'est une catastrophe, ça
Ah
passe plus du
mince.
tout. Ouais, parce que très sucré, c'est du lait, donc c'est très compliqué à digérer.
D'accord.
Mais par contre, un sorbet, ça va passer parce que là, c'est plus de l'eau que du lait. Donc, mon corps va plus facilement digérer. Et alors, tout ce qui va être très gras, très sucré, pardon, là, j'ai beaucoup de mal à le digérer. Donc, tout ce qui va être boisson sucrée, style coca ou autre, ça, c'est très compliqué à gérer. Et alors, tout ce qui va être sucrerie en grande quantité, c'est par exemple manger un Snickers, c'est impossible, quoi.
D'accord.
Parce que c'est trop de sucre d'un coup, et donc ça passera pas. Maintenant, si je le fractionne en plusieurs morceaux, ça va aller. Mais un Snickers d'un coup, ça passera pas. Et donc, c'est des petites choses qu'on apprend, mais au final, je veux dire, par rapport au gain et au confort que j'ai par rapport à ma perte de poids, la reprise du sport, etc., je veux dire, c'est des petits détails qui font avec. J'ai pas de grosses privations, j'ai pas de gros interdits. Je dois faire un peu gaffe avec le pain, mais je peux en manger. Enfin, c'est juste un peu de surveillance et du rééquilibrage, donc c'est rien de très compliqué à gérer au quotidien. J'ai pas de gros problèmes, de gros problèmes d'alimentation, et j'ai pas de problème de santé non plus parce que je fais une prise de sang assez régulièrement en termes de compléments vitaminés. Surtout que maintenant, je fais beaucoup de sport, donc je veux être sûr que tout se passe bien, et j'ai fait la dernière il y a 2 mois et elle est bonne, donc tout se passe bien, quoi.
Mais alors moi il y a un truc tu vois c'est que enfin tu m'as dit là tu as 38 ans donc tu as été opéré il y a 3 ans donc ça veut dire qu'à 34 35 ans tu te rends compte quand même que tu as trois facteurs de comorbidité ensemble ces apnées et tout tu as une petite fille qui a 3 ans à l'époque entre 2 et
Ouais,
3
c'est
ans
ça.
mais
Exact.
ça doit te foutre un sacré coup de flip quoi cette histoire-là.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'était une réflexion de ma femme qui était un peu le déclencheur, qui m'a dit que à ce rythme-là, je verrais pas ses 18 ans. Et j'étais très fâché sur le moment, je dois avouer, quand même, je me suis bien énervé. Mais au final, après, ça a mis une réflexion en moi. Et elle avait raison. Je pense que j'aurais pas tenu comme ça sur le long terme parce que j'avais des gros problèmes de poids, et ça a influencé sur ma santé, ben, sur mes genoux, sur mon dos, sur plein de choses du quotidien et sur ma santé réelle, parce que ben voilà, mon cœur avait du mal. Je faisais des apnées du sommeil, donc mais beaucoup, au point que, mais comme je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit, je n'avais pas le droit de conduire légalement, en fait, parce que l'assurance pouvait se retourner contre moi tellement c'était grave, et je devais dormir avec une CPAP, tout ça à 35 ans. Enfin voilà, c'était trop, et je m'étais vraiment laissé aller loin. Et là, je pense que ben, ça a été la petite claque qu'il m'a fallu pour me remettre là-dedans. Et finalement, elle a bien fait, parce que ben voilà, 3 ans plus tard, les choses sont plus du tout les mêmes, et je regrette pas du tout d'être passé sur le billard, comme on dit.
Mais tu sais, moi j'aime beaucoup Rich Roll, et Rich Roll, dans sa biographie, il le dit. Alors lui, il est passé par un régime conventionnel, etc. Mais il a eu ce même constat en se disant un jour, il essaie d'aller voir sa fille qui a 2-3 ans, et il se rend compte qu'il dit, je ne serai pas à son mariage. Mais
Ouais, c'est ça.
c'est flippant en fait. Il devait avoir le même âge que toi, je veux dire que c'est. Parce que tu me dis, en plus, tu dors, tu fais des apnées du sommeil et tout, alors que, tu vois, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui ont 65 ans, 70 ans, qui font des apnées du sommeil, qui sont équipés pour ça et tout. Mais là, enfin, à 33, 34 ans, c'est enfin.
Ouais, c'était compliqué à vivre. Et puis même,
Ouais.
enfin, pour ma femme à gérer, enfin, en dehors du fait que ben, il y avait un potentiel risque, à un moment ça se passe mal, ben, elle dormait avec quelqu'un qui dormait. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu une CPAP ou entendu, ça souffle, ça
Ouais.
respire, c'est pas agréable. Ben, il y avait rien d'agréable, quoi. Je prenais ma fille à bras, je respirais, ben, j'étais directement, ça monte. Comme j'avais une fréquence cardiaque au repos qui frôlait les 90, ben, dès qu'on faisait un peu d'exercice ou quoi, enfin d'exercice, dès qu'on allait promener ou que je la prenais sur mes épaules ou autre, boum, le cardio montait, donc j'étais déjà essoufflé. Et donc c'était compliqué à gérer, quoi. Et inquiétant, parce que je pense que oui, ça aurait pu sur le long terme me filer des gros problèmes de santé, et on aurait très bien pu, enfin, des problèmes cardiaques, pardon, sur le long terme, quoi.
Ouais. Et il faut le dire, parce que pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, hein, ces histoires de fréquence cardiaque qui sont élevées et tout, c'est vraiment un signe de mauvaise santé. Et quand on a une fréquence cardiaque, alors là, ta fréquence cardiaque au repos, j'imagine que maintenant elle est super basse, quoi.
Ici, elle est en 56-57 selon les jours, ouais.
Ouais.
C'est plus... Donc oui, forcément, j'ai perdu. Ouais, c'est ça.
C'est plus cool, quoi. Le médecin, quand il te voit, il doit te dire ça va mieux, non?
Oui, c'est ça. Et là, par exemple, bah, ici, je sors du vélo, j'ai fait un entraînement sur le rouleau. Et bah, je fais 1h30 de rouleau et je suis à 135 pulsations. Alors que je donne quand même pas mal. Donc ce que j'aurais fait, c'était mes pulsations rien qu'en allant promener au coin de la rue en revenant, quoi. Donc ouais, les choses sont pas du tout les mêmes. Ouais.
Ouais, moi, je sais que mon médecin, quand je me suis mis à courir, il m'a dit que ma fréquence cardiaque baissait, il m'a dit. Wow, c'est cool, ça se voit que vous courez, vous faites du sport et que ça a repris.
C'est ça.
Et c'est vraiment un indicateur, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est vraiment un indicateur qui est important de santé, hein, quand on a ces... Puis la variabilité aussi qui est plus importante, puis, parce que le crossfit, c'est quand même vachement demandeur, en plus sur... moi, j'ai fait une séance de crossfit, j'en suis sorti, mais totalement lessivé, quoi.
Mais en fait, c'est un effort qui est complètement différent de ce que toi, tu as l'habitude de faire et de ce que moi, maintenant, je fais aussi, c'est-à-dire que tu as l'habitude de faire des sports d'endurance, tu vas avoir une fréquence cardiaque plus ou moins équivalente une fois que tu es à ton rythme et que tu vas tenir très longtemps. Et en fait, le crossfit, la grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus court en termes de durée, mais par contre, on va monter dans des intensités qui sont beaucoup plus folles. C'est-à-dire que, par exemple, mettons en course à pied, tu vas t'échauffer un peu, puis tu vas être en zone 3, limite zone 4, pendant toute la durée de ton effort. Que moi, en fait, au crossfit, ben, on va passer de la zone 2 ou 3 à la zone limite 5, redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre, mais cet effort est groupé sur 20 minutes, 25 minutes. Tu vas jamais faire cet effort-là. En tout cas, à mon niveau, sur une heure et demie, les pros peuvent gérer, etc. Mais moi, c'était généralement, on travaille sur un watt d'une demi-heure, 35 minutes, grand maximum, mais à haute intensité.
Ce qui finalement revient à du 8, en fait. Finalement, c'est, ouais, c'est les bénéfices du 8.
Exactement, c'est le même concept, à part que les disciplines ne sont pas les mêmes et qu'on mixe différents sports, mais je veux dire, c'est le concept de l'entraînement à haute intensité, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie, donc en général, un watt, c'est une heure, tu vas avoir une partie échauffement, comme ça, on se met un peu dans l'ambiance, puis on va travailler ce qu'ils appelaient un skill, donc c'est généralement, c'est un mouvement d'haltéro ou de gymnastique, et puis tu vas avoir un watt de 25-30 minutes, où en fait, là, le but du jeu, c'est d'aller chercher de la haute intensité, se mettre dans le mal, entre guillemets, pendant 20 minutes, monter très fort et de redescendre très fort et de gérer ça. Mais c'est du 8, ouais, c'est ça. À part que les exercices sont pas les mêmes, mais c'est le même concept, quoi.
Ouais. Moi, je sais que le HIIT avait fait beaucoup, beaucoup de bien sur ma remise en forme. J'en ai parlé beaucoup avec mon coach à l'époque, qui m'a dit, mais effectivement, il me dit pour la remise en forme, pour reprendre cette variabilité cardiaque, hein, de monter, de descendre, etc. Il m'a dit, c'est vraiment ça, c'est vraiment très efficace. Et je sais que ça me manque, tu vois. Et pour ceux qui le disent, parce que je le dis souvent, je dis du HIIT, quand t'en fais tout seul dans ton coin, tu pousses jamais vraiment. Et je pense que le crossfit, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça t'oblige à pousser parce que t'as l'ambiance, t'as les autres, t'as l'ambiance de la salle, t'as les exercices, etc., quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis tu vas avoir toujours un coach qui va venir un peu te motiver, etc. Et puis t'as l'effet de groupe. Mais c'est comme le vélo tout seul dans la rue, c'est sympa. Maintenant, dès que tu vas monter avec un groupe, avec des gens qui vont être un poil plus fort que toi, équivalence, qui vont pousser un peu, ben, tu vas avoir cet engouement de groupe qui fait que tu vas te dépasser, que si tu es tout seul, bah, tu as tendance à être un peu plus pépère. Et le crossfit, c'est ça. Après, j'ai fait quelques entraînements tout seul pour cibler des mouvements bien précis ou travailler de la technique. Mais quand tu veux monter en intensité, c'est beaucoup plus gai de le faire en groupe. Et je fais un peu de renfort à la maison ici pour l'instant, en gardant l'exercice crossfit que j'aime bien, parce que j'ai un peu de matos à la maison. Mais c'est quand même pas la même ambiance, quoi. Alors, pour l'instant, c'est totalement acceptable parce que j'ai plein d'autres activités pour l'été, mais c'est sûr qu'une fois que l'hiver va revenir et que je vais réduire un peu le volume en course à pied et en vélo, je vais retourner à la salle parce que ça reste très gai, quoi. Et puis ça reste le sport qui m'a remis le pied à l'étrier, donc ça restera toujours un de mes sports favoris, quoi.
Alors, vu de l'extérieur, quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est un poil... Alors, violent, on sert au sens, mais on vient de le dire, un cardio qui monte très haut, puis il y a l'haltérophilie qui fait peur aussi dans certains cas et tout. Toi, tu étais débutant complet, oui. Donc c'est très progressif quand même, faut le dire.
Oui, en fait, le problème que tu vas avoir, c'est que les gens ont une vision du crossfit de ce qu'ils voient sur Instagram, c'est-à-dire qu'on voit des gars ou des femmes qui sont ultra musclés, qui vont chercher des barres ultra lourdes, mais tu te pointes pas dans un WOD de CrossFit pour la première fois en espérant faire un deadlift à 100 kilos, ça marchera pas comme ça. Et en fait, mais c'est ce qu'ils t'apprennent, c'est que tu vas commencer très léger pour travailler la technique proprement, et en fait, plus ta condition physique et plus ta force augmente, ben plus tu vas aller chercher tes barres, et c'est à toi de te connaître. Et évidemment, après, c'est à toi de te connaître et à maîtriser l'ego, parce qu'il y a un moment, ben, tu te dis, je suis pas à 5 kilos près. Enfin, tu vois, si tu as 5 kilos des 100 kilos, tu te dis, je vais le tenter. Et en fait, finalement, non, c'est peut-être pas le bon jour. Faut peut-être faire d'autres exercices, etc. Mais tu vas commencer avec des barres légères. Moi, j'ai commencé mes tout premiers exercices d'haltérophilie. C'était avec une barre à vide de 10 kilos. Parce qu'il fallait apprendre à maîtriser la barre, fallait apprendre à renforcer les muscles, à bien se positionner, à pas se blesser, etc. Surtout que moi, quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais beaucoup d'antécédents de problèmes de dos à cause du surpoids. Ouais. Donc, fallait renforcer toute la sonde abdominale. Et donc, je pouvais pas arriver comme un sauvage et faire un deadlift à 100 kilos. Je me serais claqué le dos instantanément. Et en fait, petit à petit, ben, j'ai commencé à mettre du poids sur la barre. Puis, quand j'ai commencé à réussir à soulever plus de 25 kilos, ben, j'ai pris une barre de 20 kilos, ce qui est une barre homme réglementaire. Puis, j'ai commencé à mettre du poids pour arriver progressivement un deadlift à 135 kilos, mais ça s'est fait en un an et demi, quoi.
Ouais, donc pour ceux qui se posent la question, t'es passé d'une barre à 10 à vide, qui faisait 10 kilos toute seule,
ouais,
à 130.
C'est ça, ouais. Mais c'est juste, enfin, entre guillemets, c'est, ça reste impressionnant sur les chiffres, mais je veux dire, c'est juste du travail, parce que de base, la force, j'avais plus de force que pour soulever 10 kilos. Mmh. C'est juste que je voulais faire ça proprement et bien maîtriser ma technique pour bien bloquer mon dos, faire attention à ma position avant d'aller charger. J'aurais pu, je pense, aller chercher une barre à 70-80 kilos du premier coup, mais ça n'aurait pas été techniquement propre. J'aurais pris un risque de me blesser, etc. Et donc, ça, je voulais pas. Et donc, en fait, ben, si tu appliques un peu cette règle-là, mais je pense que c'est pour tous les sports, c'est comme le gars qui commence à courir et qui décide de faire 5 km à stock, il a 9 chances sur 10 de finir avec une blessure ou de ne jamais plus recommencer parce que ce sera la pire expérience de sa vie. Et en fait, une fois que tu maîtrises ta technique et que tu prends confiance en toi, ben là, progressivement, les efforts se font assez rapidement. Et si tu prends mes... Enfin, je ne les ai pas sous la main, mais je notais toutes mes évolutions. Si tu prends l'évolution de mes barres en haltéro, ben, tu te rends compte qu'en fait, d'une semaine à l'autre, elles montent de 25-30 kilos parce que la force était là, la technique est là et la confiance est là, donc tu montes assez rapidement. Juste à atteindre un stade où ben là tu vas avoir un blocage et là ça demande beaucoup plus d'entraînement et de travail si tu veux vraiment aller chercher des charges lourdes, quoi.
Donc là c'est la partie haltérophilie, donc bon, pour ceux qui ça fait peur, faut se rassurer là-dessus, hein.
Ouais, ouais.
Bon, bon, après il y a des trucs aussi, il y a quand même beaucoup d'exercices, c'est très varié quand même, hein, le CrossFit, hein.
Ouais, en fait c'est du cardio, c'est de la gymnastique et de l'haltérophilie. Donc tu vas mixer tout ça et donc tu te retrouves ben, parfois à faire des tractions à la barre, à soulever une barre d'haltérophilie et à te monter sur un rameur pour faire X calories. En gros, généralement c'est ça le combo, c'est que tu vas mixer du cardio, donc sur un appareil de cardio style rameur, vélo ou le ski. Donc le ski, c'est, je sais pas, pour les gens qui visualisent pas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros c'est une espèce de potence devant toi avec deux manches que t'apprends et tu simules le mouvement du ski de fond, en fait.
Ouais.
Et plus tu vas tirer, c'est un ventilo, et plus tu vas tirer, plus tu vas mettre de la résistance. Et en fait, généralement, bah, tu vas avoir du cardio, un peu de gymnastique, donc ça peut être des push-ups, des pull-ups, des ring rows, enfin, il y a toute une série d'éléments de gymnastique, et puis t'as un mouvement de barre en haltéro. Généralement, ça, c'est ton WOD un peu complet. Et tu vas mixer entre les deux, donc c'est-à-dire que tu vas faire... Bah, en gros, tu vas faire, je sais pas moi, 15 cales au rameur, tu vas faire X push-up, tu vas faire 10 deadlift, et puis tu recommences ton cycle. C'est-à-dire que tu refais tes 15 cales au rameur, ton mouvement de gym va changer. Au lieu de faire des push-up, tu fais des pull-up, et tu reprends tes deadlifts, etc. En gros, parce que après, t'as des watts spécifiques où on va aller cibler l'haltérophilie, où on va cibler du cardio, ou etc. Mais en gros, tu fais un mix des trois disciplines, ouais, c'est ça.
Et bon, t'as aussi des trucs, parce que moi, quand j'avais fait, on nous avait fait sauter sur des grosses boîtes en bois.
Jump, ouais, c'est ça.
Ouais, des trucs comme ça, t'en as, ça aussi?
Oui, oui. Hein. En fait, c'est des mouvements fonctionnels. Donc, le box jump, c'est bah, tu sautes sur une boîte en bois, ou alors tu montes, ça dépend, parce que tu peux avoir le box step up. Donc, ça veut dire que tu montes sur la boîte en bois avec des poids lestés.
Ouais.
Et en fait, c'est du mouvement fonctionnel. Donc, ça t'apprend à déplacer ton centre de gravité, à bien te repositionner, etc. Et alors, t'as différentes hauteurs. Bah, tu commences pas avec l'auteur maximum. Tu t'apprends à sauter, à te positionner. Et donc, c'est ça, c'est des mouvements de fonctionnalité, c'est de la gymnastique, ça, en fait, ouais.
D'accord.
Le box step-up, j'aimais bien, moi.
Ouais, bah, moi, ça me fait rigoler. Enfin, ça me rappelle mes exercices de proprioception, parce que quand je vois un rocher, je saute dessus. Donc, mais bon, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'en fais pas qu'un saut, quoi, t'en fais quelques-uns.
Bah, tu peux enchaîner quelques-uns, tu peux en faire 30, 40 sur un WOD, ça peut aller vite, quoi. Ouais, ouais.
C'est ça.
Et ce qui est bien, par contre, pour la course à pied, par exemple, c'est les box step-up avec une charge lestée. Parce qu'en fait, tu vas renforcer énormément le dos et les genoux. Et en fait, tu fais travailler toutes tes articulations, mais sans le stress du saut. C'est-à-dire que tu montes et tu descends. Et avec du poids en plus, et donc t'as l'impression d'être léger. Mais des sauts, ouais, tu peux en enchaîner quelques-uns. Ouais, moi, j'avais fait une fois un exercice juste pour rire, c'était 100 box step-up for time. Donc, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible pour en faire 100. Et de voir un peu, c'est ce qu'ils appellent un benchmark. Donc, l'idée, c'est de te tester, le faire un an plus tard. Et, mais voilà, après, c'est pas le truc le plus passionnant. Ce qui est gai, c'est d'alterner les disciplines. Parce que faire 100 fois le même exercice, il y a un moment, même moi, c'est moins gai, quoi.
Bon. Après, des fois, j'ai des exercices et des équilibres contre un mur, là, se mettre sur les deux bras, sur un truc comme ça et tout.
Ouais, ça, c'est l'exercice. C'est l'exercice le plus compliqué pour moi, c'est la gymnastique, parce que ça demande énormément de coordination. Et effectivement, l'exercice dont tu parles, c'est le instinct push-up. Donc, en gros, c'est un pompage, mais en équilibre sur un mur. Et ça, c'est très compliqué parce que ça demande une énorme confiance en soi pour se mettre déjà dans la position. Et puis, il faut descendre sur les bras, donc ça demande beaucoup de force et de coordination. Et ça, j'en ai fait, je sais les faire. Je sais en faire un ou deux, mais je sais pas les enchaîner, quoi. Donc, je veux pas t'en faire 20 de suite, mais si tu m'en demandes un, je sais en faire un. Deux, il y a moyen. Après, je voudrais me remettre dans ma position et reprendre un peu mes esprits, puis seulement me remettre quand on voit qu'ils en font 20 de suite, je suis pas à ce stade-là. Et alors, t'as les exercices suspendus qui sont pour moi l'exercice le plus compliqué parce que là, ça demande de la force, de l'agilité et une énorme coordination. Donc, par exemple, quand tu fais des ring muscle up, donc t'as les anneaux, et en fait, tu te balances, t'as un mouvement de keeping, et puis une fois que tu t'es balancé, tu repasses au-dessus et tu remontes au-dessus des anneaux.
Ouais.
Et ça demande énormément de force et ça demande une coordination complète parce que il faut que ton balancier soit bon, il faut que ton mouvement et ton déclenchement soient au bon moment, etc. Et donc, ça, c'est des exercices sur lesquels moi j'avais beaucoup plus de difficultés parce que je suis pas gymnaste de base. Et vu ma carrure, enfin les gens le verront pas, mais je fais quand même 1m92 pour 97 kilos, pendu à des anneaux, c'est pas mon domaine de prédilection, quoi.
Ouais, je regardais l'autre jour Inner Street Trust, je sais pas si tu connais ce compte, tu sais qu'ils ont un comparateur, ils font du crossfit.
Ouais.
Hugo qui avait un exercice là sur une barre, tu sais, où tu passes au-dessus là, mais à toute vitesse en fait. Tu sais, c'est pas juste celle où tu passes juste au-dessus de la barre, tu fais une traction et tu montes au-dessus de la barre, mais tu sais, tu montes, tu descends. Alors je sais pas comment.
Ouais, c'est ce qu'ils appellent les barres muscle up. Ouais, donc t'as la barre au-dessus, en fait, tu fais une traction et tu passes au-dessus.
Ouais.
Et puis tu redescends et tu recommences. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais, ça, je sais pas les faire. Par
et à une vitesse en plus qui est hallucinante. Alors je sais pas comment ils en font, mais eux, ils ont fait des compétitions. Mais toi aussi, t'as fait des compétitions, non?
Ouais, j'ai fait une compétition interne à la boxe. On a organisé ça entre nous et on a fait une compète entre nous, ouais. Ouais, c'était gay. Après, c'était très bon enfant parce que c'était que des adhérents du club, donc on n'était pas vraiment là pour la gagne et pour se taper dans les pattes. C'était plus pour un event communautaire, mais c'était assez chouette de se mettre en mode compétition. C'est-à-dire que tu fais ton vote de toi-même en disant « Ok, je le fais pour me dépasser moi-même ». Puis il y a le petit facteur, je vais quand même, bon, on est potes et on boira un coup après, mais je vais quand même essayer de te battre parce que je voudrais être devant. Et donc tu vas te dépasser encore plus que ce que tu te dépasserais normalement en WOD, quoi. Donc ça, c'était assez gai. Mais j'ai pas encore fait de compétition officielle parce que c'est beaucoup l'été. Et j'ai pas. En fait, le problème des compétitions officielles, c'est qu'il demande, il y a des mouvements obligatoires à passer. Donc généralement, c'est les tractions. Et les tractions, c'est vraiment pas mon fort parce que il faut que je soulève mon poids. Donc là, je travaille seulement dessus. Et donc, j'ai pas encore fait de compétition officielle, mais je pense que je finirai par en faire une pour essayer un peu. Juste pour dire d'en avoir fait une, quoi. Mais c'est pas ce que je recherche spécialement dans le CrossFit. Le CrossFit, c'est plus un combat avec moi-même dans ma tête et en me disant « Ok, j'y arriverai pas, finalement, si j'y arrive, et voilà quoi. » Et ça permet c'est plus du travail de force mentale et de renforcement musculaire, ça aide beaucoup aussi, quoi.
Mais alors ça, c'est vrai que j'ai aucun doute sur le renforcement musculaire parce que... et puis c'est vrai que c'est intéressant de le dire parce que finalement, l'histoire de monter sur la boîte, là, c'est un peu... si tu montes sans les sauts, bon, ça ressemble à une grosse fente, j'ai envie de dire, un peu à...
Ouais, c'est ça.
Enfin, à une forme de mouvement, donc on sait que ça fait partie des mouvements qu'on doit faire régulièrement. Il y a plein d'exercices quand on les regarde, parce que même des fois, je regarde des exercices où il y a des lancers de medicine ball contre un mur, et puis finalement, tu les récupères dans une sorte de squat, quoi.
Ouais,
grosso modo, tu te retrouves avec des exercices qui vont faire travailler tout le corps. Et tu vois, moi, ces trucs, en fait, je me dis... on trouve tous ça chiant, le renforcement musculaire, la plupart du temps.
Ouais.
Faire le gainage, les trucs comme ça. Et alors que là, ça a l'air tellement plus fun. Alors, dur, mais fun.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment des exercices c'est l'exercice de mobilité et de fonctionnalité du corps, mais qui sont plus fun, effectivement, parce que le renforcement musculaire, on doit tous faire des fentes pour renforcer nos genoux. on sait tous qu'on les fait pas, que quand tu intègres des box jump ou des box step-up dans d'autres exercices, et qu'en fait, ils sont entre deux exercices, ils sont juste là pour te mettre un peu mal et te renforcer sous la contrainte, ben ça va passer beaucoup plus facilement. Tu vois, les wall ball shots, c'est un exercice complètement complet, parce que donc c'est celui que t'expliquais, où tu as la medicine ball de 6 ou 9 kilos selon le poids, et en fait, que tu vas lancer au-dessus d'une ligne. Mais en fait, tu dois travailler la réception, donc tu as tout ton gainage qui est contracté, tu dois en plus descendre en squat, donc tu vas renforcer les genoux, les quadris, etc. Et donc, en fait, cet exercice qui a l'air un peu bête est très complet, et si en plus de ça, tu le fais sous contrainte, c'est-à-dire qu'avant, tu as fait un peu de cardio, et après, tu as fait un peu de barre, et puis tu recommences, ben, tu dois en plus te concentrer sur le fait de vraiment bien tout gainer pour pas aller chercher la blessure. Et donc, en fait, tu te renforces musculairement, mais c'est plus fun que du renforcement musculaire à la maison, à l'élastique. Mmh. Enfin, voilà, après, on en fait, mais je veux dire, c'est quand même moins drôle quand on est tout seul dans son jardin avec des élastiques que de faire ça dans une box avec des potes, quoi.
Ah oui, ça, c'est, je te confirme que c'est pas très drôle. Moi, j'avais rajouté un peu de fun en faisant du basket, en allant balancer un ballon de basket 100 fois ou 200 fois, mais ne serait-ce que déjà pour mettre les bras au-dessus de la tête. Il y a un truc qui est bien dans le crossfit, je trouve, c'est ça aussi, c'est que finalement, tu as des mouvements que tu fais jamais sinon. Ouais. Je dis souvent, et je le dis souvent à mes coachés et tout, je leur dis, mais combien de fois dans la semaine tu mets les bras au-dessus de la tête? Et quand ils comptent, tu te rends compte que très peu. Alors toi, bon, les placards, t'es grand, t'attrapes facilement dans les trucs dans les placards. Les petits, des fois, ils sont obligés de. Ils le font un peu plus, hein, c'est un peu les plaisanteries, mais il y a plein de mouvements. À force, on ne sait plus les faire, on n'arrive plus à les faire, ou on se retrouve un peu tout bloqué, etc. Et ça joue sur le dos, ça joue sur le renforcement, ça joue sur les capacités de mouvement d'épaule, etc. Et c'est vrai que le côté fonctionnel et de certains exercices, bon, je reprends l'histoire du medicine ball, c'est des mouvements qui, en apparence, tu dis, on ne les fait pas tant que ça. Mais quand tu regardes bien après dans la vie de tous les jours, je pense que tu les vois assez bien, les transpositions de certains mouvements, notamment, je pense, avec ta fille, tu vois, ou des choses comme ça.
Ouais, c'est ça. Simplement, il y a aussi cet exercice de, où tu dois aller... le deadlift, c'est un peu le concept, mais il y a un exercice où tu dois aller chercher un sac de sable. Enfin, c'est pas vraiment un sac de sable, mais c'est un sac lesté. Et en fait, tu dois le ramasser donc en le serrant contre toi. Et en fait, tu dois le faire passer au-dessus de ton épaule et le jeter derrière. Et puis, tu te retournes et tu recommences. Et tu fais ça un nombre de... Et en fait, tu te rends compte que, comme la charge est complètement molle et compliquée, tu dois vraiment avoir un gainage complet, une bonne prise. Et en fait, bêtement, quand maintenant je prends ma fille à bras qui commence, elle a 6 ans, donc elle va chercher 17-18 kilos, c'est quand même une charge. En fait, je vais naturellement descendre un peu en squat et gainer le dos pour aller la lever à bras et une fois avoir la charge. Et en fait, c'est des trucs que tu fais pas avant parce que le réflexe avant, c'est que le réflexe classique, c'est que tu vas courber le dos, tu vas te pencher et en fait, tu vas tout tirer en sangle abdominale et en fait, c'est comme ça que tu te claques le dos. Et là, en fait, c'est tes jambes qui travaillent la plupart du temps parce que généralement, moi, quand je la prends à bras, les bras sont à 90 degrés et coincés. Et en fait, c'est mes jambes qui vont soulever le poids et pas mon dos qui travaille. Et ça, en fait, c'est des choses que tu te rends compte en faisant l'exercice. Quand le coach t'explique le positionnement et le pourquoi du positionnement, tu dis, ben, en fait, ça, c'est un mouvement. Ben, tu vois, aller ramasser une caisse un peu lourde par terre, c'est un truc que tu peux faire au quotidien. Et peu de gens vont, enfin, maintenant, de plus en plus, parce qu'on en parle beaucoup, mais peu de gens le faisaient proprement. On va courber le dos, on va tendre les bras, on va soulever la charge avec la force du dos. Et on risque de se blesser. Que justement, si tu sais que gérer le mouvement fonctionnel, ben, tu vas l'apprendre plus facilement et tu pourras prendre plus lourd également.
Ouais, et ça me rappelle toujours, mais je cite souvent cette vidéo, là, faut jamais mettre vraiment en lien un jour. Tu sais, cette pub, tu as vu cette pub allemande où tu as un papy, là, on le voit qui s'entraîne dans une grange à porter des trucs, tout le monde se demande ce qu'il fait, puis en fait, c'est pour porter sa petite fille à Noël qui lui saute dans les bras.
Et, ouais, c'est ça, ouais.
Je vois. Et sur Instagram, l'autre jour, je suis tombé sur un compte. J'ai partagé une vidéo sur mon compte Insta. Parce que qui montrait justement des exercices de musculation avec des personnes qui ont 70 ans, tu vois, des choses comme ça, et qui montrait qu'en fait la transposition mais exacte du mouvement, justement être dans un truc dans un placard, porter quelqu'un, porter ses courses, le compte montait aussi par exemple quelqu'un qui fait du une fille qui fait du crossfit notamment et de la musculation. Et qu'en fait, qui est hôtesse de l'air, qui montrait que l'un des mouvements qu'elle fait, et notamment celui que tu parles, porter un truc sur les épaules, etc., c'est exactement le mouvement qu'elle pouvait faire dans un avion pour mettre une valise, tu sais, dans les compartiments au-dessus. Et de montrer qu'en fait, ces mouvements qui paraissent être de la musculation ou du renforcement, qui ne servent pas à grand-chose, sont en fait des mouvements qu'on utilise dans le quotidien, mais qu'en fait, on ne fait jamais. Et le jour où on le fait, j'en parlais avec un coaché il n'y a pas longtemps, il a fait un truc, il s'est bloqué le dos pour 15 jours, parce que c'est des mouvements qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire. Alors que pourtant, notre corps est capable de le faire quand on y va progressivement.
Exactement. Et le plus bel exemple, c'est que par exemple, donc avant mon opération, j'étais bloqué du dos à la grosse louche tous les trimestres. La dernière fois que je me suis bloqué du dos, j'ai dû faire une infiltration tellement j'étais bloqué. Et depuis, la perte de poids aide beaucoup. Il n'y a pas que le crossfit, hein, restons sérieux. Mais depuis que j'ai perdu le poids et que j'ai recommencé le crossfit, je ne me suis plus jamais blessé le dos. Mm. J'ai plus jamais eu mal au dos. Enfin, si, j'ai parfois une douleur si je fais une longue sortie vélo ou une course à pied un peu, où je suis un peu fatigué, je vais plus attaquer du talon que de l'avant du pied, je vais sentir une petite douleur. Mais je veux dire, un peu d'étirement, un peu d'exercice, le lendemain, c'est passé à autre chose, quoi. Que jamais blessé au crossfit, je me suis jamais fait mal au dos au crossfit parce que ben, j'ai pas été comme un sauvage, donc j'ai fait ça progressivement. Mais la position et le positionnement du corps est très important. Et du coup, ben, ça fait trois ans que je n'ai plus jamais eu mal au dos, quoi. Ce qui était assez chronique avant.
Ouais,
comment ça aussi, fonctionne. Hein. Bon, après, comme je dis, il y a le crossfit qui aide, mais la perte de poids aide aussi. Je pense que je n'aurais pas les mêmes résultats en ayant 54 kilos de plus, même avec le crossfit, quoi. Non, je ne suis pas sûr que je ferai un WOD de crossfit avec 54 kilos.
C'est ce que j'allais te dire, parce que faire du crossfit avec ce poids en plus, déjà que les tractions à 90 kilos, c'est compliqué à faire. Alors, si tu en rajoutes 60 kilos de plus...
Non, je pense pas, non.
Puis même les box, les sauts, les trucs comme ça et tout. C'est vrai que... Parce que moi, je vois tout ça, plein de discours quand même sur le body positif, sur le là-dessus, il faut accepter le poids et tout. Mais quand même, quand tu as perdu autant de poids, tu te rends compte quand même que c'est plus la même vie, quoi.
Non, c'est clair. Non, et pour rien au monde, je voudrais revenir au poids que j'avais avant. Alors, je pense qu'il faut accepter toutes les morphologies, ça, je suis assez d'accord. Après, c'est... une acceptation vis-à-vis de soi-même. Moi, j'acceptais pas mon corps à l'époque. J'en voulais plus, entre guillemets, et je regrette pas du tout ma décision. Maintenant, chacun fait ses choix. Moi, c'est mon choix à moi. Je l'assume, mais c'est clair que plus jamais je voudrais revenir à cette situation-là. Je suis beaucoup plus mobile, je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus confiance. Parce que mine de rien, on est quand même dans une société où l'apparence joue pas mal, et le fait de simplement apprécier son apparence et d'avoir confiance en soi, ben, ça aide à avoir confiance en soi vis-à-vis des autres, quoi. Et donc non, je voudrais pas revenir en arrière, ça c'est clair et net. Et puis il y a plein de trucs que je fais maintenant que je pourrais pas faire avec le... Enfin, si, peut-être bien que je pourrais les faire, mais dans pas les bonnes conditions et pas forcément. Moi je me souviens qu'avant l'opération, j'avais déjà essayé plusieurs fois de me remettre à la course à pied avec des fameux programmes, les programmes Coach to 5K, tu vois, où t'apprends, ouais. Et en fait, je sais que j'avais beaucoup de douleurs au genou parce que il y avait le poids à porter, problème de dos, etc. Donc j'ai jamais réussi à aller au bout d'un truc. Et là, maintenant, 3 ans après l'opération, j'ai été chercher un 5 km en moins de 26 minutes, quoi. Mm. Et donc, l'évolution est forte. Après, voilà, c'est ma décision personnelle, mais c'est clair que je ne voudrais pas revenir en arrière et je ne voudrais pas retrouver le corps que j'avais il y a 3 ans, quoi. Ça, c'est... non.
Et tu vois, il y a un mot que tu as dit, je sais pas, j'ai pas compté combien de fois, je ne réécouterai pas pour compter, mais on va dire au moins 4 ou 5 fois, jusqu'à maintenant, c'est le mot confiance. Et c'est vrai que tu es chef d'entreprise, tu as des fonctions commerciales, ouais, de représentation, etc. Et cette confiance, et tu sais, je le dis dans l'introduction, en fait, de Kilomètre 42, que, en fait, c'est aussi pour nous donner confiance, pour prendre confiance, pour avoir confiance dans ce qu'on est capable de faire, mais aussi, finalement, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, etc., quoi. Et c'est vraiment important, tu vois, c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est de dire, il y a la confiance par le sport et tout, mais ça rejaillit dans tout ce que tu fais.
Oui, clairement. Clairement, et puis, mine de rien, après, voilà, je me considère pas du tout comme un sportif de haut niveau, etc., mais le fait simplement de pouvoir dire « j'ai fait un triathlon dans un temps que je trouve très correct », c'est un exploit, et ça, c'est, enfin voilà, ça, oui, ça redonne de la confiance en soi, et ça donne d'être fier de soi. Et effectivement, le fait d'être fier de soi et d'avoir confiance en soi dans la vie de tous les jours, ça a beaucoup d'importance et ça a beaucoup de, comment dire, de positivité, entre guillemets. C'est, enfin, tu vois, tu vas plus facilement être content d'aller bosser, être content de voir des gens, être content d'être dans un environnement social si t'es content de toi et fier de toi, que si tu te trouves gros, moche, pas en forme, etc. C'est beaucoup plus difficile de faire, entre guillemets, accepter aux autres, même si c'est pas l'objectif, quelqu'un que tu n'aimes pas, toi, déjà, que l'inverse. Une fois que tu as confiance en toi, que tu es bien dans tes baskets, etc., entre guillemets, tu te fous un peu de ce que les autres pensent. Et donc, forcément, le lien social est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas cette pression de ce que les gens vont penser de moi, vu que, entre guillemets, tu t'en fous, vu que tu es en accord avec toi-même. Et donc, c'est beaucoup plus gai. Et moi, je le vois même dans mon quotidien et au boulot. Déjà, j'ai repris du plaisir à m'habiller. Ça, mine de rien, c'est quand même agréable. Surtout que moi, je passe quand même toutes mes journées en chemise ou en veston, etc. Donc, c'est quand même gai de se retrouver habillé. Et même ma prise de parole en public, j'ai plus confiance en moi. Enfin, c'est vrai que c'est le mot-clé de ce podcast. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre la parole en public maintenant qu'avant. Parce que toute la partie acceptation n'est plus là. Je suis content de mon corps, je l'assume. Alors après, c'est à moi, ce problème-là éliminé, j'ai juste à me concentrer sur ce que je vais dire et pas te raconter de bêtises. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus simple de prendre la parole en public maintenant qu'avant.
Mais ça, je le conçois vraiment. Et puis, c'est vrai que, en plus, tu le dis, prendre plaisir à t'habiller, pouvoir t'habiller, j'ai envie de dire, comme tu veux, beaucoup plus facilement aussi.
Ouais. Ouais, parce que les chemises que j'avais avant l'opération étaient en 4XL et maintenant je suis en XL, 2XL selon les marques, mais ouais, j'ai perdu 3X, quoi. Donc forcément, je rentre dans n'importe quel magasin, je trouve une chemise à ma taille ou un pantalon à ma taille. Donc. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable, quoi. Qu'avant, il fallait déjà aller dans certains magasins, et puis quand tu dois acheter une chemise en 4XL pour l'ego, c'est pas terrible, quoi. Enfin, en tout cas, mon ressenti à moi, c'est que c'était quand même pas terrible.
Ouais, non, mais après, c'est, je le comprends très bien, effectivement. Et pour finir sur cette histoire de confiance, tu l'as ressenti aussi sur la confiance dans ta capacité, tu vois, par exemple, à bien vieillir, parce que franchement, tu dois avoir beaucoup plus confiance aussi sur le fait que. On parlait tout à l'heure de l'histoire d'être marié de ta fille, par exemple. Mais ça aussi, ça doit te tranquilliser quand même, parce que tu devais avoir une anxiété, à un moment donné, non, de ce qui pouvait se passer.
Ouais, clairement. Et en plus, pour accentuer l'histoire, c'est que avant, j'étais fumeur. Maintenant, je ne le suis plus. Donc, forcément, j'étais gros fumeur, etc. En plus, histoire d'être en surpoids, etc., je cumulais un petit peu toutes les tares. Et là, du coup, ça va faire un petit peu moins d'un an que j'ai arrêté de fumer. Avec la reprise du sport, en fait, je me suis dit, je fais attention à ce que je mange, je refais du sport 4 fois semaine. C'est con de continuer à fumer, donc j'ai arrêté de fumer. Et donc, forcément, évidemment, ma santé va beaucoup mieux. Et donc, après, on n'est pas à l'abri de pépins de santé, même si on est très sportif. Mais voilà, je suis beaucoup plus confiant maintenant à voir le mariage de ma fille et à vieillir tranquillement que je pouvais l'être avant, quoi. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais a priori, j'ai plus de chance maintenant que ce que je pouvais en avoir avant.
Bon, déjà, tu es plus sous respirateur la nuit?
Non, non, j'ai plus de CPAP du tout, je ronfle plus du tout, je fais plus d'apnée de sommeil. Et mes prises de sang sont super bonnes. Donc ouais, non on peut dire que je suis en bonne santé, oui.
Ouais, ce qui est une grande victoire, parce que c'est vrai que t'as que 38 ans, ça fait un vieux papy quand je parle de ça, mais moi j'en ai 47 bientôt, mais c'est vrai de se dire, quand t'as pas 40 ans et que t'es dans cet état de santé, ça devait mettre un coup au moral, et de dire, c'était le bon moment pour se remettre dans le bon sens, et puis derrière, ça t'ouvre des trucs sportifs, parce que moi je regarde un peu ce que tu fais, on a parlé de triathlon, t'as pas parlé de vélo encore, on va parler de vélo après, t'as parlé de natation, de course à pied, je sais pas si il y a des trucs que tu m'as pas dit en plus, non c'est ça
Non, après j'ai été très longtemps plus jeune, joueur de basket, donc de temps en temps j'en refais un peu, mais c'est vraiment anecdotique. Non, c'est principalement crossfit, course à pied, vélo, enfin natation. Et là, l'été arrivant, on part en vacances en montagne, et donc ça va être beaucoup de randonnées aussi, parce que ça, j'aime beaucoup, mais qui reste dans la mouvance de ce que je fais, quoi. Ça reste de l'endurance et du sport d'extérieur, quoi.
Alors, tiens, on va venir sur le triathlon, parce que t'en as fait quoi, 2 triathlons ?
Je suis au deuxième, ouais. Le premier, c'était un cross triathlon, donc c'est l'équivalent en distance, mais sauf que c'est du VTT et du trail. Et donc là, j'ai fait, moi, ce que j'appelle mon premier vrai triathlon, c'était là, il y a 2 semaines, où là, j'ai fait un triathlon sur route en distance S. Donc, distance S, c'est 750 mètres de nage, 21 en vélo et 5 à pied. C'est le plus petit des triathlons.
Tu t'es mis un peu au... Enfin, moi, j'ai écouté l'épisode de podcast où tu parlais de ton triathlon cross. Ouais. Tes aventures en gravel, terrain technique, etc.
Ouais, c'est ça. Mais donc, en fait... Ouais, le premier, c'était vraiment un coup de tête. En fait, donc, j'ai repris le gravel, le vélo, parce que le concept de partir à l'aventure en vélo me tente pas mal. Et donc, le gravel permet ça. Et donc, en gardant un peu de course à pied, parce que la course à pied me permettait de faire un peu de cardio, en prenant un peu l'air par rapport au crossfit. Et donc, je faisais un peu les deux. Et donc, j'ai un pote qui me dit, je fais un triathlon du week-end. Et je dis, oui, mais non, moi, je nage pas, etc. Et puis, le triathlon, j'avais toujours dit que j'en ferais jamais. Ça me paraissait beaucoup trop compliqué comme sport et comme enchaînement. Et du coup, il n'a pas dû insister très longtemps parce que finalement, je me suis dit, pour le défi, je vais le tenter. Parce que, je suis dans une ère un peu nouvelle pour le sport. Et je me dis, ce sera une case de cocher. On verra, si ça tombe, je vais détester, puis on verra. Je suis inscrit. C'est pas ma meilleure expérience parce que c'était du BTT. Donc, je l'ai fait en gravel. Le terrain était très gras. Donc, j'ai mis énormément de temps à sortir du vélo. Donc ça, c'était un peu compliqué. En plus, j'avais les jambes complètement cramées pour la course à pied. Mais ça reste une très chouette expérience humaine. Je me suis bien amusé et ça m'a donné envie d'en tester un ou deux en conditions réelles, ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant que j'ai fait le deuxième, que je termine par contre là en 1h37, Donc je mets 10 minutes dans l'eau, je mets 47 ou 48 minutes sur le vélo et 28 à pied. Donc je suis très content pour un premier. Et donc du coup, ben là, je suis inscrit à 2 en septembre et je pense que je vais tester une distance M en début 2024, où là c'est le double, donc c'est 1 km de natation, 40 en vélo et 10 à pied. Parce que j'ai dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour je ferai un half Ironman, donc ce que tout le monde appelle le 70.3, qui me paraissait des distances encore accessibles enfin avec le temps que je peux consacrer à l'entraînement par rapport à un full Ironman où là il faut s'entraîner 15 heures par semaine et ça dans mon emploi du temps c'est pas jouable quoi.
Ouais, tu dis ça pour l'instant.
Après, j'ai appris à ne plus jamais dire jamais parce que voilà, évidemment, j'avais toujours dit non, et du coup, j'y mets, donc voilà, je ne vais pas dire jamais, mais là pour l'instant, c'est pas dans les plans d'entraînement du tout, quoi.
Non, j'ai pensé en plus pour Jean-Philippe Millard, qui est parce que quand on va diffuser ça, l'épisode, oh, on sera quoi? Il doit être à une semaine, il doit être dans 10 jours, il doit faire son Ironman à Francfort, qui a été opéré lui aussi, hein, c'est un épisode que j'ai diffusé il y a 5-6 mois, je crois à peu près. Je regarde l'entraînement et tout. Alors il a perdu 20 kilos pendant sa préparation Ironman et tout, avec beaucoup beaucoup de persévérance et tout pour y arriver et vraiment des horaires. On en avait parlé, l'organisation millimétrée, etc. C'est vrai que c'est un gros gros défi. C'est vrai que la préparation triathlon, c'est ce que tout le monde dit en plus. De toute façon, hein, c'est que le passage du half au full. Au niveau emploi du temps, etc., elle est un peu compliquée à gérer, en plus quand tu as beaucoup de choses à côté. Mais peut-être, après, je me dis, peut-être tu t'es fixé ça, enfin, non, tu n'es pas fixé ça pour tes 40 ans, ils arrivent dans pas longtemps finalement, un petit saut comme ça là.
Non, mais mes 40 ans, je pense que je vais me lancer sur le même défi que toi, c'est-à-dire que je ferai bien un marathon pour mes 40 ans. En plus, ce sera l'occasion de trouver une chouette destination un peu au soleil, de faire un marathon ensoleillé, de profiter d'un petit week-end avec madame. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Maintenant, je pense que ça peut se combiner dans une préparation Ironman, ça on verra un peu. Ou un Ironman pour mes 40 ans, je sais pas encore. Parce que en fait, l'idée, c'est l'un des deux. Et l'idée, c'est de profiter un peu pour partir sur une destination un peu exotique. Et quitte à faire la démarche et d'en profiter, quoi. Pas de faire ça à côté de chez moi. Je me dis, il y a plein soit de marathons, soit de half Ironman dans des coins un peu sympas. Là, il y en a eu un pas longtemps à Lanzarote. Je me dis, les paysages sont quand même vraiment cool. Et quitte à en faire un, bah, autant marquer un peu le coup. Ou alors, on en parlait avec ma femme parce qu'on s'est rencontrés au Canada à l'époque. Et du coup, le Life Ironman du Mont-Tremblant, qui était pas loin de là où on habitait à Montréal. Et donc, je me dis que ça pourrait être aussi une chouette expérience en me disant, voilà, mon premier Ironman se ferait au Canada. Et donc, c'est un peu la boucle qui se boucle. Donc, voilà, ça serait dans les projets, mais j'ai encore rien de concret.
Ouais, tu vois, quoi tu penses? On pense toujours à ce genre de choses. Hein, en plus, quand on change de dizaine, on a
Dans
toujours
un
des
coin de
idées à
la
la
tête, ça reste
con,
toujours aussi ça.
on a toujours ces trucs-là à la con. Moi, pour te dire, hein, entre ceux qui m'ont dit, tiens, je ferais bien Ironman pour mes 40 ans et que ça tombe l'année de mes 50, ou ceux qui m'ont dit, je ferais bien la Lionel des Fous pour mes 40 et que ça tombe aussi l'année de mes 50, et ils me disent, tu viens avec moi? Ouais, bon, hein, tu vois le genre de truc. Bon, ça me laisse un petit peu de temps. En attendant, tu t'entraînes quand même sur ces histoires de comment ça s'appelle de triathlon. Parce que en piscine, t'es pas, tu me sembles, tu me dis, tu t'es pris une passion, mais tu nageais quand tu étais jeune, hein?
Oui, j'ai beaucoup nagé quand j'étais jeune, donc enfin, j'ai une bonne technique. J'aime pas dire ça parce que il y a sûrement 1 000 choses à améliorer, mais j'ai une bonne base en natation, donc je suis pas trop mauvais. Je pars pas de zéro, quoi. Donc ici, par exemple, je suis pour l'instant, après, c'est des moyennes, mais je suis à peu près à 2 minutes au centre, ce qui est très correct pour un gars qui n'avait pas nagé depuis perpète. Et donc je fais. Bah écoute, ici, les 750 mètres de natation au dernier triathlon, je les sors en eau libre, je les sors en 10 minutes 56, donc je suis pas trop mauvais. Mais c'est gay, en fait, la natation, je me rendais pas compte. Et c'est un très bon exercice pour renforcer toute la partie haute du dos, les épaules, etc. Et donc, ça, c'est assez chouette. Et j'ai une bonne flottaison, donc ça, je suis relativement content.
Ouais, c'est cool, alors que moi la flottaison je l'ai pas. Moi mon problème c'est
Mais
la
je sais, mais
flottaison.
j'écoutais un épisode ce matin où tu avais, je sais plus son prénom, mais la triathlète professionnelle,
Oui, Julie,
où
oui.
justement vous parliez de ouais, sa vie, vous parliez de flottaison. Et donc, moi, ça va, ça, j'ai pas le problème. Donc,
Bah, écoute, tant
mais donc voilà, oui, je m'entraîne en natation et j'essaie de nager 2 fois semaine. Et là, pour le moment, comme il fait bon, j'essaie de nager 1 fois en piscine parce que c'est plus facile à caser dans une journée de boulot. Entre 2 rendez-vous, je peux aller nager 1 heure ou 1 demi-heure. Et alors, on essaie de faire une sortie par semaine en eau libre. La chance qu'on a, c'est que pas très loin d'ici, on a une piscine extérieure, donc c'est pas vraiment de l'eau libre. Mais on a un lac où il y a un centre adepte, où il y a un club de triathlon. Et donc là, on peut aller s'entraîner en eau libre aussi, 1 fois par semaine. Et ça permet de se mettre en condition avec la combi, le courant, etc. Donc ça, c'est assez chouette.
Tu travailles les transitions aussi entre les différentes disciplines ou pas?
Non, pour l'instant, j'y vais à l'arrache. Après, je regarde quelques vidéos sur YouTube. Il y a 2, 3 petits conseils que mais je veux dire, là, j'essaie de m'améliorer sur les 3 sports. Et après, je travaille les transitions, mais non, pour l'instant. Et en plus, mon équipement est pas du tout optimisé pour aller vite en transition. Enfin, c'est ce que je disais. J'ai pas de lacets à serrage rapide. Mes chaussures, c'est des chaussures de graveleux, donc j'ai des lacets. Donc, c'est même pas un bois à serrer. Donc, voilà, moi, je prends le temps, je m'essuie les pieds, je mets mes petites chaussettes, fais mes lacets, etc. Donc, non, les transitions, pour l'instant, c'est vraiment pas mon focus sur l'entraînement. Ça viendra sûrement parce que je pense qu'il y a un moment, si tu veux améliorer du temps, il faut travailler là-dessus. Mais là, je me concentre beaucoup sur l'eau parce que j'aimerais bien arriver à pouvoir faire les 750 mètres en moins de 10 minutes. Et alors, la course à pied, parce que 28 minutes, c'est pas mauvais, mais j'aimerais bien pouvoir descendre en dessous de 25-26, mais sous contrainte, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, pour le moment, je me concentre sur les 3 disciplines sportives et quand j'aurai atteint des niveaux qui me plaisent bien, à ce moment-là, je regarderai pour améliorer mes transitions. Mais pour l'instant, je prends mon temps.
Bon, et dans tout ça, tu nous as pas parlé de ton petit truc de gravel là que tu es en train de préparer là.
Ah, mon défi du mois d'août. Ouais, en fait, dans la reprise du vélo, j'ai repris le gravel parce que je te dis, l'idée de pouvoir partir plusieurs jours en bikepacking gravel m'intéresse beaucoup. Et donc là, je me lance un petit défi cet été, ouais, au mois d'août, c'est dans pas longtemps. On part une semaine à la mer du Nord, donc à 180 km de chez nous, avec ma femme. Et donc l'idée, c'est que ma femme parte avec ma voiture et ma fille dedans, et que moi, je fasse le trajet en gravel. Ce qui nous fait une sortie gravel de 187 km pour The Komoot, d'après le dernier trajet validé que j'ai fait, m'annonce 11 heures de sel. Donc on verra un peu. Je pense aller plus vite parce que je trouve que Komoot sous-estime un peu mes capacités, mais à mon avis, on est quand même parti sur 10 bonnes heures de sel en dehors des pauses. Donc une bonne journée de vélo complète, quoi.
Je me rends pas compte le dénivelé commenté dans ta région, si c'est du plat ou du pas plat en fait.
En fait, c'est moitié-moitié, donc je vais avoir à peu près 600 mètres de dénivelé positif jusque Bruxelles, donc la moitié entre guillemets du pays, et puis je crois qu'il reste 100 mètres même pas, parce qu'après c'est relativement plat. Donc la partie la plus compliquée, ça va être au matin, pour partir d'ici, passer la moitié entre guillemets du pays. Et après c'est relativement plat, mais plat et découvert, donc je risque d'avoir le vent de face, parce que tout bon cycliste sait que le vent en vélo, de toute façon, tu l'as en plein milieu du visage. Et donc, je risque d'avoir moins de dénivelé, mais par contre, je risque de me battre contre le vent, donc ça risque d'être quand même assez costaud, quoi. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un pote qui ferait bien la route avec moi, et donc je ne serais pas tout seul dans mon défi, donc on serait deux, donc ce serait déjà quand même plus cool à gérer, quoi.
Et comment tu prépares ça alors en fait?
Du volume, du volume, du volume, du volume. Et donc ça combine bien avec l'entraînement. Donc en gros ici, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des grosses sorties longues. Le maximum que j'ai fait sur une journée, c'est 90 km. Mais en fait, je fais beaucoup de rouleaux et je fais pour l'instant, j'ai mis en place de l'entraînement bi-quotidien, c'est-à-dire que je vais quasi faire du rouleau tous les soirs et une autre discipline en plus. Et donc en fait, comme c'est du cardio entre guillemets, et que ça fait travailler les jambes, je pense que l'entraînement croisé du triathlon est pas mal. Et donc en fait, je fais un maximum de volume à basse intensité. Je fais un peu de fractionné pour augmenter ma vitesse, mais là, je suis beaucoup en zone 3. Je fais beaucoup d'endurance fondamentale pour aller chercher du cardio. Enfin, le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir pédaler le plus longtemps possible, pas forcément d'aller vite. Je cherche pas une performance de vitesse. Et donc en fait, je fais beaucoup de volume. Et donc là, comme les journées se rallongent, j'ai mis en place pour l'instant l'entraînement. Ouais, je fais 2 entraînements par jour quand je sais. Et donc, généralement, je vais nager, je fais du vélo. Ou ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est je vais faire un peu de rouleau. Je vais faire 1 heure de rouleau. Puis je vais aller courir 1 demi-heure. Comme ça, je fais une transition vélo-course à pied. Et ça reste de l'exercice cardio, quoi.
D'accord. Donc tu arrives à
Et donc, le
placer
volume.
une heure et demie dans ta journée, tu arrives à placer comme ça d'entraînement, quoi.
Le soir, en fait, beaucoup. En fait, en gros, la chance que j'ai, c'est que ma fille a un rythme assez fixe qu'elle aime bien. Et donc, en gros, on va souper. Elle est au lit, il est 20h, 20h15. Et en fait, je vais m'entraîner après. Parce que le matin, comme j'ai des grosses journées de travail et que je travaille beaucoup, le matin d'office, c'est du temps en famille. Donc, le matin, je m'entraîne pas. On déjeune en famille, je la conduis à l'école, etc. La journée, ben, je rentre quand je rentre. Et alors, le soir, ben, on va souper ensemble. Je ne vais jamais m'entraîner si elle est là. Sauf les week-ends, ça, c'est plus compliqué. Donc, la semaine, c'est vraiment le soir. Donc, généralement, si tu regardes mon Strava, mes entraînements sont entre 20h et 20h30. Aujourd'hui, c'était différent. Par exemple, elle est chez sa grand-mère. Mais donc, en rentrant du boulot, j'ai pu faire mon heure de vélo. Mais généralement, c'est ouais, je suis en train de terminer mon entraînement ou terminer ma transition parce que c'est les seuls moments que j'ai pour pouvoir faire du volume, quoi. C'est
Ouais,
pas toujours facile
ça.
après une journée de boulot, mais.
Ça va, je te prive pas de ta sortie parce que là on enregistre, il est 21h27, ça fait 1 heure qu'on discute.
Non, non, je l'ai fait à l'avant.
Ouf.
Donc, il n'y a pas de
Ah,
souci.
parce que si je te privais de ta sortie et tout, j'aurais l'idée d'aller chercher ton rouleau, on aurait fini d'enregistrer sur ton rouleau. Bon, écoute, hein, moi je fais des épisodes en courant, tu peux bien faire des épisodes en pédalant, hein, franchement, ça changerait pas
Ouais,
grand.
je pourrais. Bon, je pense pas que les auditeurs apprécieraient de m'entendre souffler comme ça, mais oui, j'aurais pu.
Oui, t'es debout là, t'as un bureau debout, non?
Oui, je suis debout. Mais en fait, j'ai pas de bureau chez moi, donc je suis dans la salle de jeu de ma fille. Tu vois pas l'envers du
Ah.
décor, mais il y a des jeux partout, mais je suis debout, ouais.
Ouais.
Et j'ai un bureau debout au boulot, j'aime beaucoup travailler debout. Et là, je crois que je vais craquer, je vais me commander un tapis de marche pour le spécial pour les bureaux debout pour pouvoir marcher en bossant de mon bureau.
Bon, alors regarde pas mon compte LinkedIn, j'ai dit que c'était nul.
Ouais.
Mais bon, après, je comprends ta logique aussi, c'est pour arriver à placer ça avec le boulot. Mais c'est vrai, et sans blague, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai publié l'autre jour, il y a 2 jours, je crois, ou hier, en disant que ça remplace pas quand même de prendre l'air. Et c'est vrai qu'après, bon, ça arrive à aller courir et tout, ça. Mais il y en a qui vont pas prendre l'air, qui restent enfermés et qui marchent sur leur petit tapis. Et au bout d'un moment, quand même, l'épisode de Sport Nutrition avec Anthony Berthoud, on expliquait bien quand même que d'aller marcher dehors, c'est quand même pas mal aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais fait
Ouais,
un petit.
d'office. Mais après, tu vois, moi, dans ma journée de boulot, je suis pas souvent au bureau parce que ben, je suis plus commercial que. Et donc, je suis beaucoup dans ma voiture, je suis beaucoup en rendez-vous, donc je vais marcher beaucoup, prendre l'air. Mais
Ouais.
parfois, je fais des journées un peu bloc au bureau, je fais mes devis, mes offres de prix. Et là, en fait, c'est de marcher. Parce que travailler debout en restant statique, je trouve ça un peu ennuyant à la longue. Et là, je me dis, en fait, le fait de marcher, de faire et de travailler à l'ordi. Mais c'est clair que ça remplacera. Le but du jeu, c'est pas de remplacer d'aller prendre l'air ou d'aller me promener. C'est juste d'optimiser le fait d'être debout et de faire bouger un peu les jambes en attendant, quoi.
Bon, écoute, moi je suivrai tes aventures, tu vois, si tu prends ça. Sur puis si tu prends pas de gamelle aussi, parce que bon, il y a petit côté glissade possible.
Ouais. Oui, c'est ça. Je ferai des stories Instagram et on suivra tous savoir
Ouais, comme ça on
voir si ça
suivra
se passe
ça
bien.
en direct. Tu pourrais faire un live Twitch ou je sais pas quoi et tout sur du podcast. T'en es où ton podcast d'ailleurs?
Bah écoute, j'ai un épisode en cours justement. Je reviens sur mon compte rendu de course au triathlon de Couvain, au triathlon des Sharks. Et alors après, j'en ai un deuxième, mais là, il faut que je termine de l'écrire sur justement comment j'arrive à combiner les entraînements et comment je vois l'entraînement combiné, ma vision à moi d'entraînement combiné. Et j'essaie de. Bon, après, voilà, je ne suis pas très régulier, mais j'ai deux, trois idées d'épisodes qu'il faut que je mette en place, mais du coup, il me faut du temps. Là, l'avantage, c'est que je vais partir en vacances, donc je vais avoir un petit peu plus de temps libre et je vais pouvoir en écrire quelques-uns, peut-être les enregistrer et programmer des diffusions.
Ouais, c'est cool,
Ou alors je
c'est
passerai mes
chouette.
journées à marcher, à aller me promener en montagne et j'aurai peut-être pas le temps, on verra. Je n'ai pas
Ouais.
l'impression avec ça, je sais pas.
Bah écoute, ne te mets pas la pression. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui sont abonnés. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent écouter tes aventures. Parce que
C'est gentil.
justement, c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus sur l'histoire du triathlon, dans le triathlon cross et tout. Parce que tu l'avais bien détaillé, t'es bien expliqué. La natation, comment c'était passé, le vélo, la boue, le terrain technique, le temps. Bah, en plus, c'est vrai que
Oui,
le
c'est ça, oui.
printemps a pas été très sec. Donc, c'est vrai que. Moi, je vois sur le Gravelman, c'était sous la flotte. Là, j'en vois certains. Là, il y en a un qui est en train de faire un traversée de la moitié de la France. Il a pris l'orage. Ça fait 3 jours qu'il est dans l'orage. Il a pris de la gadoue, de la glaise. Il passait pas loin de la maison. C'est vrai que quand c'est ces conditions-là, quand même, et puis en plus, tu es en gravel, pas en VTT sur des terrains techniques. Tu l'avais très bien expliqué. C'était un peu chaud. Donc, c'est pour ça que je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés par aller écouter tes aventures où tu expliques très bien le truc. Justement. Et donc, moi, tu vois, je suis abonné à ton podcast. Hein, j'écoute ça avec impatience, tes aventures et tout. Après, quand même, tu as toujours en projet de faire ton Gravelman Flandre l'an prochain?
Oui, ça reste dans le pipe, ouais, je pense bien.
Non, parce que tu sais
Oui,
que
parce que ça,
j'ai.
c'est vraiment une aventure qui me plaît bien. Et donc, et en plus, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est le plus accessible à faire pour moi. Et donc, oui, c'est toujours dans le projet. J'ai pas changé d'avis sur ce coup-là.
D'accord, donc je peux le laisser dans mon agenda alors.
Ouais, on se traîne équipe, si tu veux.
Ouais, sur 350 hein, par contre.
Oui, hein. Ah, ouais. Oui, tant qu'à faire. Mais écoute, je n'ai pas encore les dates en tête, mais je pense qu'avec le vol d'entraînement, je pense que les 350 pourront passer. Et donc après, là par contre, en fait, moi, j'ai encore, donc ici dans le programme, j'ai encore deux triathlons, trois pour la fin de l'année. Et après, je pense qu'en septembre-octobre, je vais quand même commencer à augmenter fort le volume vélo, justement pour pouvoir préparer un gravelman. Mais non, après, on verra après ma sortie de 187 au mois d'août. Ça tombe, je serai dégoûté à vie des longues sorties, mais j'ai pas l'impression.
Non, mais bah en plus, tu peux faire des pauses et tout. Bah, après, je te dis, tu peux faire des pauses, je sais pas comment tu gères ça, bah, après ton opération, mais pause boulangerie et compagnie. Comment tu te ravitailles d'ailleurs dans le sport? Parce que c'est exigeant comme. Bon, là, tu es sur des petites distances en triathlon, donc t'as pas d'alimentation à gérer. Mais sur tes sorties vélo, là, comment tu prévois ton alimentation sur tes 187 km? Parce que 10, 11 heures de sel, tu es obligé de prévoir quelque chose.
Mais ça, c'est un peu le problème. Bon, mais tout ce qui va être gel et barre du commerce ou autre, ça, c'est proscrit. J'ai essayé les gels, mais c'est beaucoup trop sucré. C'est beaucoup trop sucré d'un coup. Oui. En fait, ce qui marche très bien, le pain d'épices. Ouais. Bizarrement, le pain d'épices, je le digère très bien et ça m'amène pas mal de sucre. Et alors, j'ai trouvé une marque de bar près de chez moi qui fait des bars salés. Et en fait, si je les coupe en deux et que je divise, au lieu d'en manger une toutes les heures, je vais manger une demi toutes les heures. Là, ça passe, ça va tout seul. Et alors, tout ce qui est boisson isotonique, en fait, je n'utilise pas de boisson isotonique. Je mets des BCA dans de l'eau. Et en fait, comme ça, il n'y a pas de sucre ajouté. Et là, ça va. Maintenant, il faudra que je teste ça sur l'effort. Parce que la dernière fois, j'ai fait une longue sortie vélo. Et je me suis raté la boulangerie. Et la fameuse pause boulangerie en vélo. Et là, par exemple, un pain au chocolat qui pourtant est très sucré dans l'effort et avec la dépense énergétique est passée sans problème, quoi. Donc, il faut que je teste un peu parce que les habitudes de la vie de tous les jours et les habitudes dans le sport après l'effort, je pense que je peux augmenter un peu les taux de sucre. Mais par exemple, tout ce qui est gel très sucré, les espèces de gel un peu boost ou quoi, ça c'est. J'ai essayé une fois, mais alors là, ma sortie est finie. Donc, Mais le pain d'épices, c'est un peu mon sauveur. Et alors, ce qui marche bien aussi, c'est les cacahuètes salées. Ça y a rien à faire. Ça passe tout seul, quoi. Et donc, du coup, ben, ça. Et alors, je pense que une petite pause boulangerie ou autre. Le tout, en fait, c'est de pas exagérer. L'idée, en fait, c'est de, au lieu de manger très régulièrement, mais des toutes petites quantités. Et là, en fait, mon corps va les gérer. Donc, au lieu de manger une barre toutes les heures, je vais manger une demi-barre toutes les demi-heures. Ou je vais manger, alterner une demi-barre toutes les demi-heures et entre cacahuètes salées ou autre. Mais en fait, c'est manger un tout petit peu, mais très régulièrement. Pour en fait rester alimenté constamment, mais pas faire un bloc de 2 heures et puis me filer de gel et une barre, parce que là, alors, je m'arrête pour les 2 heures suivantes et je fais une sieste, parce que mon corps... En fait, quand je mange trop de sucre, je fais ce qu'on appelle un dumping, et donc en fait, mon corps me met en chaos pour digérer, parce que justement, ça alimente d'énergie, donc généralement, je dors. Et donc, si je fais ça en pleine sortie vélo, ça va être moins agréable, quoi. Mais donc je teste, mais le pain d'épices, c'est mon go-to, quoi.
Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, c'était pas la première personne que j'ai en invité qui est opérée comme ça. Et en fait, vous n'avez pas les mêmes conséquences derrière, tu vois, sur les stratégies. Alors, on a fait 2 épisodes avec Thomas Billon, un sur KM42, un sur Sport et Nutrition. Et dans Sport et Nutrition,
ouais, j'avais écouté son épisode. Ouais. Et tout,
en disant, alors tu vois, lui par exemple, les bulles ne passent pas du tout. Alors, je sais pas, toi, ça passe pas non plus les bulles. Hein.
Mais pas en sport, parce qu'en fait le problème c'est que il faut imaginer que mon estomac fait un peu de choses près la taille d'une boîte de thon, je sais pas si tu vois, enfin, c'est la seule image que j'ai, voilà. Et donc si en plus de ça, si tu mets de l'alimentation dedans et que tu mets une boisson gazeuse qui va venir me faire gonfler l'estomac, en fait je vais être à saturation tout de suite.
D'accord.
Et donc en fait le problème c'est que je vais me sous-alimenter parce que j'ai une sensation de satiété, d'écœurement. Et en fait c'est pas bénéfique. Donc au quotidien, je peux de temps en temps boire une bière, je peux boire un verre de champagne, faire un truc avec des bulles, c'est pas le problème. Mais dans l'effort, non, pas du tout, parce que ça passe très mal. La dernière fois, je l'ai fait sur un jogging où au ravitaillement, il y avait du coca, et me demande pas pourquoi j'avais envie de sucre. Et donc, le verre de coca me tentait bien. Et en fait, ça m'a bloqué complètement. Ça a été une catastrophe pour terminer, parce que en fait, cette sensation de gonflement, de ballonnement, j'étais vraiment pas bien. Donc, les bulles pendant l'effort, c'est non.
Ouais, et lui, il expliquait justement qu'il le dégazait son coca. Alors, je sais pas où il en est, sa stratégie de dégazage de coca, justement, pour éviter d'avoir les bulles. Mais bon, toi, après, le sucre, que tu disais, hein, c'est la réaction au sucre aussi qui est importante.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai que les différentes stratégies et tout. Alors, Jean-Philippe, lui, il avait un problème, il est diabétique. Alors, ça rajoute encore une gestion qui est différente. Et c'est vrai que des fois, quand on entend les stratégies, je sais pas comment tu gères ça, parce que des fois, moi, tu vois, j'ai des invités sur les podcasts qui parlent de stratégies, etc. Puis, des fois, il y en a un ou l'autre, il m'envoie un message, il me dit, mais c'est inapplicable pour moi, ce genre de truc. Donc, tu es obligé de tout tester, tu as des stratégies vraiment très à toi pour arriver finalement à trouver ce qui va bien convenir.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, en gros, donc, à part l'hydratation, où là, je pense que je dis la même pour tout le monde, c'est que tu dois boire tout le temps pour pas te déshydrater, parce qu'une fois que tu es déshydraté, c'est trop tard. La stratégie alimentaire, en fait, je la teste à l'entraînement et je fais plein d'essais. Et donc, ça m'arrive d'avoir dans les poches de mon gilet, d'avoir plein de barres différentes parce que j'essaye et je teste un peu et je fais des essais-erreurs parce que généralement, je cours autour de la maison. Donc, même si à un moment ça se passe mal, bah, je sais rentrer à pied ou je sais demander à ma femme de venir me chercher. Donc, c'est moins grave qu'en condition de course. Et donc, en fait, je fais plein de tests et c'est comme ça que je me suis rendu compte que là, pour l'instant, les barres salées, j'ai plus la marée du truc, mais c'est un gars qui fait ça près de chez moi. Les barres salées passent très bien, et alors le pain d'épices passe super bien, et donc un mix des deux, pour le moment, parce que je fais pas de très longue distance. Je pense qu'à un moment, si je pars sur 20, 30 d'efforts sur un gravelman, je pense que barres salées plus pain d'épices, il y a un moment, je vais en avoir marre. Mais pour l'instant, ça marche très bien, et ça me permet de garder un certain niveau d'efficacité. Et donc, je teste un peu. Là, par exemple, la dernière fois, je suis parti. Bon, c'est moins pratique à emporter, mais j'avais acheté du pain de mie. Je m'étais fait des tartines en triangle avec du fromage. Et en fait, ça passait bien aussi. Donc, je fais des petits essais-erreurs. Je me teste un peu et je vois un peu. Et ici, je regardais, il y a une marque qui a lancé des gels, mais avec beaucoup moins de sucre, en fait. Ils ont compensé le sucre par autre chose. Et donc, j'en ai commandé un ou deux pour essayer, me dire voir pourquoi pas. Parce que parfois manger solide, j'ai pas trop envie. Donc, mais voilà, il faut que je. Et j'ai déjà dit qu'il faudrait une fois, parce que tu t'en parles souvent, c'est les sticks de miel de chez Happy Run. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Donc j'ai déjà dit qu'une fois, j'essaierai aussi d'en commander. Mais donc pour le moment, je profite de l'entraînement pour faire de la erreur, ouais, me tester.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on en disait, puis j'ai déjà été sport nutrition, on disait, c'est que la connaissance, en fait, c'est-à-dire que par nécessité, enfin, t'as une connaissance exacte de ce qui va passer, etc. Alors que tu vois, moi, il y a des trucs. Enfin, je te le dis, moi, à la boulangerie, je me préoccupe pas. Tu vois, je prends le premier truc qui passe, etc. Parce que j'ai aucun souci pour le passer, pour le digérer ou quoi que ce soit. Je sais juste qu'un flan avant d'aller courir, en pâtissier, mais en vélo, ça passe bien. Mais en fait, la connaissance, et c'est vraiment intéressant, hein, cette histoire-là, c'est que, en fait, tu vas beaucoup plus loin. Tu vois que les tests qu'on est plein à faire là-dessus, c'est-à-dire sur ta connaissance même de comment ton corps réagit, comment tu gères ça, etc., tu vas beaucoup plus loin dans la connaissance et dans les tests que ce que je fais moi, mais ce que feront beaucoup de personnes, en fait.
C'est l'opération qui fait ça. Et comme je disais, moi, au tout début, après l'opération, j'ai fait le même concept d'essai-erreur dans la réalimentation. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des aliments qui passaient pas, que le pain, il fallait que je sois très précautionné avec le pain parce que ça peut vite me mettre dedans, etc. Et en fait, j'applique cette même stratégie au sport en me disant, voilà, je vais tenter des trucs sans trop prendre de risques. Et comme ça, je vais apprendre à connaître mon corps pour arriver à un stade, je pense, dans plusieurs mois, voire années, où je sais que sur un effort de X heures, j'aurai une stratégie d'alimentation qui sera bien faite parce que je connaîtrai mon corps par cœur, en fait. Parce que du coup, moi, j'ai cette obligation de le faire parce que, entre guillemets, si tu manges un truc qui n'est pas forcément adapté, les contraintes ne sont pas très graves en soi. Ouais, tu es un peu mal au bide ou quoi, etc. Moi, si je fais un dumping dans une course à pied, ma course est finie. Si je fais un dumping dans un effort longue distance, je ferai un dumping sur le vélo en triathlon, je me lance même pas dans la course à pied parce que j'arrête le vélo, je me couche sur le bas-côté. Donc, j'ai cette pression de devoir absolument savoir ce que je vais manger, à quel moment je vais le manger. Enfin, le moment à lequel je vais manger, ça, c'est moins compliqué. Parce que du coup, comme je vais m'alimenter peu, mais souvent, j'ai pas cette question de timing, de devoir me rappeler de manger, etc. Parce qu'en fait, c'est quasi en continu sur le vélo. Toutes les 15-20 minutes, je vais manger un petit morceau. Et par exemple, je vais boire toutes les 10 minutes aussi, parce que je peux pas boire de grandes quantités non plus. Donc, je peux pas me dire à un moment, je vide 500 ml de flotte d'un coup, parce que ça va me caler. Donc, je bois des petites gorgées tout le temps. Et en fait, je bois une gorgée, et je bois en gros... À la grosse louche, je vais boire 3 gorgées d'eau, je vais manger un morceau, je vais boire 3 gorgées d'eau, je vais manger un morceau, et en gros, c'est toutes les 5 minutes, je bois un coup, je mange un morceau.
D'accord.
Mais voilà, c'est pour les distances actuelles. Mais non, après, quand on sera sur des plus longues distances, je ne sais pas du tout comment le corps va réagir, mais ça, ce sera de l'apprentissage en live, on verra un peu, quoi.
Ouais. Et tu vois, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question quand tu disais ça, c'est sur la natation. Parce que bon, sur le vélo, t'alimenter, c'est assez, enfin, c'est même très facile. Parce que tout est sur le vélo, etc. Mais par contre, en natation, alors normalement, en triathlon, en natation, tu t'alimentes pas, tu bois pas, puis tu peux pas avoir le bidon, etc. Mais ça peut être une contrainte particulière, en fait, sur les distances, si, avec l'allongement des distances.
Ouais, là, je pense qu'il va être compliqué à mettre en place et à trouver comme stratégie, ça va être l'alimentation avant. Donc, d'arriver à manger assez bien pour stocker assez de. Bah, je dis ça, mais à mon avis, je pense que tous les triathlètes ont le problème. C'est-à-dire que tu vas. Enfin, quand t'as un sportif qui fait un full Ironman et qui fait 3,8 km de natation, le gars s'alimente pas pendant la natation. Donc, je pense qu'il a une stratégie d'alimentation avant. Et donc, en fait, je pense que ça va être la complexité, ça va être de trouver le timing au moment de le manger pour que mon corps garde des forces et de trouver ce que je vais manger pour avoir assez de sucre, de glucides, etc. pendant tout l'effort. Ça, je pense que ça va être un peu touchy. Là, actuellement, sur 750 mètres ou même sur les 1000 mètres d'une distance M, bah, généralement, le matin, moi, ça va être un bol de flocons d'avoine avec du miel ou du sirop d'agave et des graines de chia, un peu de noix. Là, j'ai tous les aliments qu'il me faut. Mon corps le digère bien, ça je le connais par cœur, je sais que je peux le manger avant une course, j'aurai pas de problème de digestion, et j'ai assez d'éléments pour terminer la course à pied, la natation, pardon, et au moment où je monte sur le vélo, je peux attaquer la stratégie de l'alimentation. Et encore, sur une distance S, à part une demi-tranche de pain d'épices en montant sur le vélo, pour le reste, j'ai pas vraiment besoin de. C'est des courtes distances. Mais ça va être le côté complexe, c'est d'arriver à bien m'alimenter pour que mon corps soit assez performant sur, entre guillemets, une longue distance en nage. Ou alors de travailler très bien ma technique pour nager très vite et sortir vite de l'eau. Mais ça, c'est moins facile à mon avis.
Ouais, c'est-à-dire que bon, après, c'est vrai que sur les distances, quand tu me dis tu nages en 10 minutes, 10-30, les choses comme ça, c'est vrai que c'est un temps d'effort qui est court par rapport. Mais bon, après, quand la distance s'allonge, forcément, il y a un moment donné, même les meilleurs nageurs sortent pas en 10 minutes sur ces distances-là. Donc, dans tous les cas,
Non.
il y a un moment donné, il y a ce créneau-là. Mais ce qui est vrai, ce qui est intéressant, tu vois, et ça recoupe ce qu'on disait avec Thomas dans le premier épisode où j'ai eu dans Sport Nutrition, justement, de cette questionnement, se dire comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'on peut tester, etc. Puis c'est vrai que c'était intéressant parce que lui, il a trouvé plein de stratégies et tu te rends compte en fait qu'ils l'ont pas du tout bloqué dans ses projets. C'est-à-dire qu'il a plein de projets, il a réussi à faire plein de choses, etc. Et toi, comme tu le montres, tu as fait plein de sports. Il y avait une question, tu vois, je me posais aussi, c'était sur la récupération, parce que le crossfit, bon, t'en dépenses quand même de l'énergie sur du crossfit. La course, le vélo, en vélo, on se rend pas compte, mais passer 10 heures sur la selle en niveau pompage énergie, etc. J'imagine que la récupération derrière, là aussi, c'est-à-dire que bah, j'imagine que tu as le même stratégie de fractionner, mais que finalement, sur ton temps de récup pour avoir récupéré ce que tu dois manger, etc., ça prend du temps. Enfin, je sais pas comment tu gères ça, en fait.
Honnêtement, ça va. Bah déjà, la première chose que j'ai fait, c'est depuis que je fais du sport, c'est que je dors beaucoup plus. Donc ça aide beaucoup à la récupération. Et en fait, bah c'est juste de la régularité. Donc en gros, l'alimentation. Après, je t'avoue que je ne compense pas toutes les calories que je perds en sport parce que ben voilà, je n'y arriverai pas. Mais j'ai en ayant des repas bien organisés et en fait, donc en gros, je vais déjeuner, je vais avoir une collation à 10h, je vais dîner, je vais avoir une collation à 15h, je vais souper. Et généralement, quand je vais rentrer de ma session d'entraînement, je vais avoir une collation plus légère, un fruit, un yaourt ou autre. Et en fait, le fait de manger régulièrement et plus ou moins de façon constante tous les jours, à part quelques exceptions. Ben, mon corps s'est habitué à gérer dans ses réserves et ça me permet de tenir. Après, pour des volumes actuels, dans l'évolution du volume, je ne sais pas très bien comment je vais gérer. Je vais avoir envie de devoir manger plus souvent encore que ça. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un rythme de croisière qui est plus ou moins correct. Donc, j'ai un très bon petit déjeuner qui est 90% du temps mon fameux bol de flocons d'avoine. Je vais manger généralement à 10h, je vais manger un fruit et un morceau de pain d'épices. Je vais manger du pain ou une salade de riz ou autre que je vais préparer à midi. Je mange froid, je mange jamais chaud le midi. L'après-midi, j'essaie de prendre un laitage et de nouveau un fruit, une banane ou autre, un truc un peu sucré. Et alors le soir, ben, ça dépend un peu des repas, mais généralement, je fais un repas complet. Et alors quand je reviens de mon dernier entraînement, là, généralement, je suis sur un laitage parce que c'est digéré pour avant d'aller se coucher et je me charge pas avant de dormir. Et parfois, en fait, j'ai juste pas faim, j'ai juste envie de dormir, donc je vais me mettre dans mon lit. Je bois un grand verre d'eau, je vais me mettre dans mon lit, ça passe très bien.
Bon, on le constate
Donc je
quand
pense
même,
que c'est
c'est
la
que.
régularité et après,
Ouais, et puis
excuse-moi.
la densité aussi. C'est-à-dire que tu me dis du riz, du pain d'épices, où il y a une densité finalement qui est importante par rapport à la taille de l'estomac. On en revient à ce qu'on disait avec Thomas, c'est-à-dire d'avoir une densité assez importante finalement par rapport à la quantité que tu manges pour que justement ça t'apporte assez par rapport au fait que tu peux pas avoir des grandes quantités, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est, par exemple, tu vois, moi, les fameuses compotes et les pommes potes dont tout le monde parle, en fait, c'est pas... C'est trop liquide, ça ne me remplit pas l'estomac. J'ai besoin de plus de consistance pour que ça dure. Et donc, par exemple, j'en emporte jamais. J'en ai jamais avec moi quand je cours, etc. Parce que, mais par contre, le soir, avant d'aller me coucher, pour remettre un peu de sucre dans l'organisme de ce que j'ai perdu à l'entraînement, ça, par contre, ça passe bien. Parce que c'est très léger, ça va être facile à digérer et ça va pas m'ennuyer pendant la digestion en dormant. Mais par exemple, dans l'effort, ça ne me sert à rien, quoi. Parce que ça ne m'apporte rien en termes de nutrition et j'ai pas ce sentiment de satiété. Et donc, je vais avoir envie d'en manger beaucoup et de saturer un peu. Et puis après, d'être soit un dumping, soit d'être écœuré, etc. Donc, non, il me faut, comme il disait Thomas, je lui ai piqué pas mal d'idées en écoutant l'épisode. Il faut des trucs consistants. Et là, je suis en train de tester 2-3 trucs de boules énergétiques que je fais moi-même. Enfin, de barres céréales que je vais faire moi-même. Comme ça, je sais le taux de sucre qu'il y a dedans. Je peux surveiller. Et en même temps, c'est relativement compact. Et dans l'estomac, ça va amener une densité qui va me permettre de gérer sur l'effort, quoi. Et moi, je sais ce qu'il y a dedans.
Ouais, bah vous allez finir par monter une boîte d'énergie ball.
Ouais, c'est ça. On va mettre nos recettes en commun, pourquoi pas.
Non, parce que c'est vrai qu'il teste plein de recettes et tout. Puis en plus, avec son BTS diététique, il y a plein de choses, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant parce que, en plus, je pense que ces stratégies-là que tu cites, c'est intéressant pour tout le monde parce que moi, tu vois, les énergie balls, etc., les trucs comme ça, c'est des choses que j'ai testées sur le marathon, sur les recettes et tout. Et qui. Aussi, tu vois, moi, si j'ai ces contraintes-là, c'est aussi plus agréable d'avoir un ventre, d'avoir moins se remplir pour avoir la même énergie. C'est quand même, t'es quand même mieux pour courir, t'es quand même mieux pour bouger, t'es mieux pour dormir, pour tout ça, quoi. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant d'aller devenir piocher aussi dans ce que toi, pour toi, une contrainte obligatoire, mais ce qui, pour nous, peut être un avantage, en fait, d'aller chercher, de s'inspirer des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller vous piquer les idées, en fait. Tu vois, moi, quand Thomas, il partage des trucs, je regarde un petit peu, je me dis, tiens, je vais piquer ça. Et c'est vrai que les énergies bol, mais et le pain d'épices, je t'en joins aussi, tu vois. Moi, c'est par exemple aussi, alors moi, après le sucre, j'adore ça. Alors, le nougat, tu vois, sur mon vélo, la dernière fois, je mangeais du nougat. Ça fait partie des choses qui passent super bien, tu vois, qui sont super agréables, etc. Parce que je sais aussi que, tu vois, ça, c'est compact, ça passe bien, c'est facile à manger, c'est assez facile à défaire. Quoi que ça dépend du nougat que tu prends, ça dépend des marques de nougat.
Vite te colle au doigt.
Ouais, il y en a qui collent au doigt et tout. Bon, il y a une marque qui commence par un D, qui finit par un O. Tu sais qu'il y en a, ils collent pas du tout au doigt, leur. Par contre, il y en a d'autres qui collent beaucoup au doigt, c'est plus compliqué à manger. Mais tu vois, ça fait partie des choses aussi que j'apprécie. Tu vois qu'il reste des trucs très denses, finalement, en quantité, qui sont assez petits, qui sont très denses et qui finalement sont plus agréables aussi, finalement, même si moi, j'ai pas la contrainte, en fait.
Ouais. Après, je pense qu'on a tous à y gagner de partager nos connaissances. Et effectivement, nous, on a peut-être des choses à apporter. Et dans l'alimentation, je veux dire, classique, même si j'aime pas le bleu, il y a des choses, il y a des idées que je pique aussi parfois auxquelles je pense pas. Et donc, entre guillemets, des sportifs qui n'ont pas mon opération vont m'amener une idée ou un aliment en me disant ouais, ça j'ai pas testé, je teste très bien. Et finalement, en fait, il va me convenir, peut-être pas forcément dans les mêmes quantités qu'eux, mais peut m'apporter dans ma récurrence aussi l'alimentation. Donc, je pense que c'est ça qui est gai, c'est de partager l'expérience et de faire des tests. Et pour moi, les entraînements sont l'idéal pour ça. C'est que tu fais tes tests en entraînement, comme ça, tu as une bonne stratégie en course et tu t'improvises pas en course, quoi. Sauf, je pense que là où tu peux improviser plus, c'est sur les longues sorties vélo. Les longues sorties vélo, je pense que j'ai pas de stratégie très complète sur ma sortie de 187 km parce que, déjà, c'est un sport porté, donc les contraintes de digestion sont moindres. Et puis, même si je suis un peu moins en forme sur le vélo, les jambes tournent et je récupérerai. Donc là, j'improviserai un peu. Là, par exemple, mon repas de midi, je l'embarque pas avec moi. Au fur et à mesure, je trouverai bien un truc à manger. Je sais pas moi, un sandwich ou autre, je trouverais bien un truc sur la route parce que je vais pas me charger avec toute mon alimentation pour une journée complète. Il faudrait quasi une remorque alors à ce moment-là avec deux bidons d'eau derrière et donc je vais partir plus léger. À mon avis, je vais partir avec mon alimentation jusque les 2-3 premières heures et après le reste, j'improviserai un peu au fur et à mesure, quoi.
Ouais, puis ça, si tu traverses des grandes villes où c'est ouvert et tout. Parce qu'on en parlait avec Alice Michel sur les jours où tu traverses les villages de jours fériés. En France, je sais pas en Belgique comment vous êtes au niveau des jours fériés, mais en France, comme on a un bon paquet, au mois de mai, on était plein de jours fériés. Alors, dans les grandes villes, tout est ouvert, mais dans les petits villages où tu te retrouves dans des magasins où tout est fermé, etc., tu te retrouves. Et puis, les lundis, les boulangeries sont fermées, les trucs comme ça. C'est vrai qu'on peut avoir des pièges. Et sur le Gravelman, Sven Lillary avait prévenu, il a dit, attention, passez Conda, vous avez 5 heures, vous ne verrez pas un village. Et puis, il avait raison, en plus, hein, le bougre. Donc là, c'est là où tu es content d'avoir une sacoche et une grande poche cargo quelque part et tout. Mais c'est vrai qu'après, tu peux toujours fractionner. Même si tu trouves un truc en boulangerie, tu peux toujours dire, je fractionne, je mange en plusieurs fois. Et même moi, tu sais, mon croissant aux amandes que je mange, j'achète à un truc, je le mange en 5-6 fois hein, pour le temps de le savourer, tu vois, etc. Donc, là-dessus, je ne m'inquiète pas trop parce que c'est vrai que les contraintes en vélo, je le répète, sont quand même beaucoup plus légères. J'avais quand même une question, tu vois, que je t'ai pas posée tout à l'heure. C'est le regard de ta femme et de ta fille, en fait, sur ton évolution.
Elles sont très contentes. Je pense que parfois elles me détestent parce que je m'entraîne un peu beaucoup, je pense. Mais elles comprennent parfaitement, elles respectent parfaitement tant que j'arrive à trouver un équilibre vie privée. Enfin, faut pas que le sport devienne ma priorité absolue. Donc ça, je pense que je gère pas trop mal. Et de toute façon, ma femme me recadre quand j'ai tendance à déborder. Et je pense que ma fille est très fière. Elle s'en rend pas très bien compte de l'évolution parce que la période où, avant l'opération, elle était assez jeune et donc elle a pas vraiment souvenir de ça. Ouais. Mais je sais qu'elle est relativement fière. Et ce qui est cool, c'est que parfois, je l'emmène avec moi. Donc j'aime bien quand je suis dans une semaine un peu plus cool, je vais faire un run and bike avec elle. Donc c'est-à-dire que moi, je cours, elle est sur son vélo. C'est plus compliqué pour être régulier dans l'entraînement. Donc là, c'est vraiment une sortie plaisir parce que si je vais pas assez vite, elle accélère. Si je vais trop vite, elle freine. Et c'est elle qui gère le rythme. Donc, c'est pas très quali comme entraînement, mais on passe un bon moment.
Ouais, c'est
et alors, dans la box où je suis en CrossFit, ils avaient mis en place, tous les mois, il y a un entraînement le samedi où c'est un entraînement parents-enfants. Et donc, les exercices sont adaptés aux enfants. C'est beaucoup de la psychomote qu'on fait ensemble. Et on a eu des grosses parties de fou rire, etc. Et donc, je pense qu'elles sont fières. Et donc là, elles veulent venir me voir sur le prochain triathlon à l'odeur pour voir un peu, et je pense se rendre compte un peu de l'ampleur. Mais le sport, je pense qu'elles sont fières. Et puis le rééquilibrage alimentaire et le fait que j'aille mieux, je suis en meilleure santé, etc. Je pense que après, elles ne me le disent pas directement, mais je pense qu'elles sont contentes toutes parce que je vais mieux. Et même le fait d'être beaucoup plus confiant de moi et de m'apprécier plus, je crois que je suis plus agréable à vivre aussi. Et donc voilà quoi. Donc je pense qu'elles sont fières.
Bah écoute, c'est une belle conclusion.
Enfin, ma fille, je le sais parce qu'elle me le dit tout le temps. Ma femme est plus discrète, mais je pense qu'elle l'est aussi.
Mais c'est une belle conclusion, tu vois, de dire aussi, fait d'être plus confiant, d'être mieux, t'es aussi plus agréable à vivre. C'est des choses aussi, tu sais, que je me pose beaucoup la question. Des fois, ma fille, je montre les photos de quand j'en faisais 32 plus. Et elle me reconnaît sur la photo. Mais elle a du mal à se rendre compte du changement parce qu'elle m'a jamais connu en fait comme ça parce que moi j'avais perdu mon poids avant et tout. Et c'est vrai que les enfants en dessous de 2-3 ans de toute façon ils se rendent pas compte toi, à un moment où ses souvenirs sont là. Mais des fois je lui montre, tu vois, elle voit les photos quand même et en lui disant tu sais quand même ça fait partie aussi de la fierté que j'ai, tu vois, de partager. Et des fois elle me trouve pénible. Peut-être que toi aussi tu te trouves pénible quand tu dis de manger ses légumes. Et après, des fois, elle dit « Ah, mais moi, je suis content parce que finalement, je vais manger plus de légumes. » Et je la regarde, je dis « Ah, peut-être que finalement aussi, on a réussi à transmettre ça, tu vois, sur ces petits trucs, etc.
Ouais, »
Il y a quelques années, je n'aurais pas transmis du tout, mais que maintenant, tu vois, je fais attention à ça aussi parce que je sais aussi vers quoi, tu vois, moi, ça m'a amené. Et de lui montrer aussi ça, des fois, et elle se rend compte aussi de l'importance et puis après, il y a des réflexions des fois qui sont rigolotes après sur d'autres choses, mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est intéressant dans l'éducation qu'on peut leur amener sur l'alimentation et sur l'importance de manger de tout et de manger notamment des légumes.
De manger de tout, et alors par exemple, moi ce que je mets en place avec elle, et ça ma femme est relativement d'accord avec moi, c'est que je ne vais jamais l'obliger à finir son assiette.
Ouais.
Alors, c'est une enfant, donc je la connais un peu, donc si elle me dit j'ai plus faim, je lui dis ok, t'as plus faim, je t'oblige pas à finir l'assiette, mais si t'as plus faim pour un dessert. Et là, tu te rends vite compte que si elle a plus faim ou elle a plus faim, parce que voilà, que les fois où elle a vraiment plus faim, elle te dit ok, elle laisse son assiette, elle prend pas de dessert. Bien souvent, elle tente des choses. Ouais. Mais je vais jamais l'obliger à finir un plat si elle me dit vraiment j'ai plus faim, parce que je sais d'où je viens et j'ai pas envie qu'elle, je veux qu'elle puisse le plus longtemps possible, continuer à écouter son corps et son sentiment de satiété. Et si t'as plus faim, tu forces pas. Ouais. Et les enfants sont beaucoup plus malins que nous pour ça. C'est que quand ils ont vraiment plus faim, ils vont jamais forcer l'alimentation. Donc ça, je veux qu'elles le gardent. Et alors, effectivement, le fait qu'on ait rééquilibré un peu l'alimentation et qu'on fasse ça, inconsciemment, c'est des choses qu'on lui transmet. Et donc, elle va manger sans s'en rendre compte plus sainement. Parce qu'on mange plus de légumes, parce qu'on évite les trop transformés, parce qu'on évite le soda, parce que plein de choses. Et... Bon, ma fille, elle boit que de l'eau. Quand c'est jour de fête, elle a droit à un verre de grenadine, mais je veux dire, elle a jamais bu de soda ni rien. Et tant mieux que ça continue comme ça et le plus longtemps possible. Mais voilà, ce qui est cool, c'est de pouvoir le faire sans la forcer. Je veux pas la forcer, je veux pas que ça devienne une contrainte et qu'il y pense tout le temps. Mais si elle nous voit faire, bah, elle va le reproduire. Et finalement, elle prendra des bonnes habitudes avant de devoir passer par... sans risquer d'arriver par où moi je suis passé et devoir passer par une opération, etc. quoi.
Mais c'est important, de cette histoire de satiété, c'est important parce que je le dis dans mon programme SAM sur l'introduction sur l'alimentation, c'est que on a été élevés par des parents qui ont été élevés eux-mêmes par des parents qui ont connu la guerre, qui ont connu les privations. Et mon grand-père et mes grands-parents, c'était absolument « faut finir ton assiette, faut pas gâcher ». Il y a aussi le « fais-moi plaisir, je l'ai préparé pour toi ». Alors que quand ma mère fait ça avec ma fille, je dis « stop » quand elle dit ça. Mais c'est vrai aussi que on a été élevés par des parents et des grands-parents qui ont été élevés dans ce manque, dans la privation d'une époque, etc. Et ce truc de « faut finir l'assiette », tu vas pas laisser traîner ça, etc. Où on se rend compte que on l'a en fait, tu vois. Moi, l'autre jour, je regardais ma fille et un truc qu'elle a pas fini. Et en fait, je regardais l'assiette, je dis, mais c'est dommage qu'elle finisse pas ça. Et tu vois, mon truc, c'est de dire, je le finis. Alors que si j'écoute ma satiété, normalement, je le finis pas. Et ça, je sais que ça vient de l'éducation, que ça vient aussi de ce que j'entends, parce que quand j'entends ma mère le dire, tu vois, quand je me rappelle de mes grands-parents, ce qu'ils pouvaient dire. C'est là aussi, on voit par l'éducation que finalement, on a été coupé de notre satiété. Comment on a pu être coupé de l'écoute de certaines émotions, de certains sentiments, etc. Et que notre satiété, finalement, on nous a appris à ne pas en tenir compte parce que c'était aussi le contexte de l'époque, d'une époque qui voulait ça, quoi. Enfin, on était éduqué comme ça, en fait.
Oui, c'est ça. Et après, je te rassure, mais j'ai encore parfois du mal à écouter ma satiété. Et parfois, même moi, je vais me dire, c'est quoi, je vais terminer. Sauf que moi, je sais que si je termine, je vais être mal. Et donc, inconsciemment, je ne vais pas le faire. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, tu finis pas ton assiette, donne, je vais finir, quoi. Et puis tu fais, non, parce que si je finis, moi, donc je finirai pas. Mais c'est compliqué d'écouter son sentiment de satiété parce qu'on n'a jamais été habitué à ça. Et donc, et c'est ce que moi, j'aime. C'est un des bénéfices pour moi, en tout cas, de l'opération, c'est que ça m'oblige à l'écouter parce qu'après, ça me met des contraintes que j'ai pas envie. Et donc, inconsciemment, j'ai pris cette habitude. Et donc, par exemple, maintenant, on se rend compte que quand on fait à manger, il y a beaucoup moins de quantité.
Ouais.
Parce que comme on sait ce qu'on mange, on va cuire beaucoup moins, il reste parfois un peu pour le lendemain, mais je veux dire, on arrive à cuisiner très juste qu'avant, je faisais les pâtes, on était deux, on n'avait même pas ma fille, on faisait 600 grammes de pâtes, tu vois, mon Dieu, et on en mangeait 4 jours. Que là, en fait, je vais réduire les quantités de pâtes, et généralement, à la fin du repas, tout le monde a bien mangé, sans forcer, et il reste peut-être une demi-assiette pour le lendemain, mais même dans nos habitudes de cuisine, on s'est adapté aussi à notre façon de faire, et donc c'est ce qui permet de gaspiller moins, et de manger moins, et de manger mieux aussi. Parce que du coup, comme tu as moins de quantité, tu peux permettre d'aller plus sur la qualité que la quantité, et donc je trouve qu'on mange mieux aussi.
C'est une belle conclusion ce coup-là. En tout cas, Thibaut, c'était cool de t'avoir, parce que sacré parcours, sacré changement, qui met en place... Il y a plein de questions, tu vois, il y a plein de trucs, plein de choses, on voit que ton cheminement, et puis c'est intéressant parce que je pense que tu es l'un des premiers invités qui faisait du crossfit, en fait. Tu vois, dans tous les invités, on a eu des gens qui ont transporté des drôles de trucs sur le dos, qui ont fait un peu du parcours d'obstacles, qui ont fait des choses comme ça, etc. Mais sur la place du crossfit, et c'est vrai que moi, tu vois, le côté crossfit, le côté ludique, etc., tu vois, je suis un peu stoppé par le prix, tu vois, des fois, des box et tout, parce que c'est vrai que le crossfit fait partie des salles où l'abonnement est quand même élevé. Sur lequel, tu vois, je me dis, c'est un complément, je trouve, qui est vraiment très intéressant. Et autant, tu vois, je trouve les salles de muscu, c'est un peu ennuyeux, tu vois, juste les salles de muscu et des trucs comme ça et tout. Autant, le crossfit, il y a un côté plus amusant, tu vois,
il y a un côté beaucoup plus fun. Dedans,
plus fun, etc. Et qui, je pense que pour les gens qui sont un peu fignants comme moi, qui n'ont pas trop envie de faire le gainage, qui n'ont pas envie de faire le renforcement, etc., c'est un moyen aussi d'y aller d'une manière qui est plus ludique, qui est plus amusante et qui permet de faire aussi des choses et à être allé là-dedans. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Et puis, bien sûr, écoute, ton parcours est remarquable. Pour ceux qui voudraient suivre le podcast, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Tu peux juste rappeler le nom ?
C'est Gravel Oxide.
Voilà.
Parce que, en fait, c'est une aventure en gravel qui m'a emmené à Coxy, donc j'ai mixé les deux. Voilà. Les gens savent.
Donc, je mettrai le lien parce que moi, je suis abonné. T'as un compte Instagram toujours, hein. De toute façon, j'ai regardé tout à l'heure.
J'ai un compte Instagram, toujours. Et j'ai toujours mon blog qui est beaucoup moins alimenté qu'avant, mais qui vit toujours. Et de temps en temps, j'y poste un truc, mais beaucoup sur Instagram,
Fais toujours de la photo, des trucs comme ça, autant?
Non. Enfin, si, j'en fais un petit peu, mais je veux dire, c'est plus, j'ai pas le temps, en fait. Hein, donc, j'en fais parce que j'en fais toujours avec mon téléphone quand on a les vacances, les souvenirs, etc. Et que j'aime bien ça. Mais vraiment, des sorties photos comme je pouvais faire avant, non, j'ai absolument plus le temps. Donc, j'ai dû faire des choix. Et quand il me reste du temps libre, ouais, je préfère le passer en famille que de dire, bon, ben, maintenant que j'ai fini de m'entraîner, je vais aller faire des photos parce que, y a un moment, ça ne. J'ai pas envie, en plus, voilà, donc.
Et puis, je dois te dire un truc aussi, c'est que il y a un truc que j'ai regardé ton blog avec beaucoup d'intérêt. C'est sur le matériel quadlock. Moi, je suis équipé en quadlock sur le vélo, etc. et tout. Et j'étais allé regarder toute la liste de matériel que tu avais en quadlock en me disant, attends, qu'est-ce qu'il a pris, etc. et tout. Et c'est un très bon choix hein, sur les. Franchement, j'en suis très content. Je sais pas si tu as toujours du quadlock ou pas.
Ouais, ouais, j'ai deux fixations vélo, une sur chaque vélo. J'ai la coque, etc. Ouais, c'est du très bon matos et c'est très. C'est hyper solide. Moi, j'ai déjà fait voler mes téléphones parfois en vélo et j'ai jamais eu de problème. Et là, j'ai récemment acheté leur dernier truc, c'est l'espèce de petit trépied selfie qu'ils ont fait.
Ah oui, il est bien.
Qui est assez, ouais, il est vraiment chouette, il est assez pratique. Alors, il est assez compact. Donc, par exemple, moi, je le range parfois dans le, tu vois, les poches arrière sur les vestes de vélo. Ouais. Je viens le coincer là, et comme ça, je peux l'avoir un peu en perche, etc. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait un peu trépied selfie. Enfin, il fait trépied. Donc, si tu veux faire une photo un peu chouette au téléphone, ouais, non, il est vraiment chouette.
Ouais.
Et donc, ouais, Quadlock, c'est du bon matos. Ouais, je suis assez content de. Mais tous mes téléphones ont été équipés Quadlock depuis un petit moment. Ouais.
Ben voilà, bah écoutez, je mettrai les liens aussi pour ceux qui veulent découvrir, parce que souvent on me demande comment je fixe mon vélo, comment je fixe le téléphone sur mon vélo. C'est du quadlock, et c'est vrai que j'avais regardé ton blog, j'ai regardé tous les accessoires, etc., tous les trucs comme ça. Et donc je t'en remercie pour les recommandations, parce que c'est une très bonne recommandation. Bah écoute, sur ce, on va aller se coucher maintenant, parce qu'on a dit que c'est important la récupération, important le sommeil, ouais, il est 10h chez nous. Je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. Thibaut, je te remercie beaucoup, en tout cas, et je te le redis encore, bravo pour ce parcours.
Merci.
Moi, c'est vrai que ça faisait un bout de temps, et puis comme tu postes pas des selfies tous les jours sur ton compte Instagram, et ben d'un coup, le changement de tête, oui. C'est-à-dire, waouh, mais attends, c'est bien le bon Thibaut que j'ai en face de moi. Oui, c'est le bon Thibaut. Une fois que t'as parlé, j'ai reconnu la voix et tout, j'ai dit là-dessus. Bravo encore. Je te souhaite une belle aventure. Hein, et des belles vacances, belle aventure, parce que ouais. Ça va être chouette hein, de faire ça. Tu m'as un peu donné l'idée, tu vois, d'aller voir la mer et tout, de dire tiens, je vais prendre un peu en vacances. En écoutant ton truc, ça fait partie de ceux qui font fleurir un peu cette idée-là, de dire bah tiens, moi aussi, je vais voir la mer, l'océan ou les deux. Bon, j'ai allongé
ouais,
un
ça,
peu
ça,
la distance.
Ça permet de t'entraîner et de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Il y a juste un truc qui m'ennuie, c'est que ma trace fait 1630 km aujourd'hui, celle qui est prévue. C'est un petit peu, peut-être un petit peu grand quand j'ai dit ça et tout. J'ai dit, ouah, punaise. Et il y a certaines personnes qui me proposent encore de l'allonger un tout petit peu, mais qui m'ont proposé des parcours un peu sympas. Bon, on verra ça pendant l'été. En tout cas, on va suivre les aventures des uns et des autres. Je mets tous les liens dans les deux épisodes. Et puis, bien entendu, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ah, je vous dis pas l'invité, mais je sais qui c'est. Ah, tiens, on parlait de muscu. Un petit peu, du muscle hein, et tout. Et tu sais, ça fait partie de mes grandes obsessions. Je t'ai pas demandé si tu voyais tes abdos maintenant ou pas, ou si ça faisait une partie d'un truc qui t'obsédait ou pas, tu vois, ou quoi que ce soit. Non. Bah, tu vois, je demanderai à mon prochain invité comment on fait pour voir ses abdos. Parce que moi, ça fait partie du truc qui fait partie de mes obsessions. Mais ça sera un autre sujet. En tout cas, Thibaut, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Ciao, ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.